Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 48e numéro des spéciaux de Comic City, toujours avec l'infatigable Sam.
Je sais pas, infatigable... Bon, tu me bats, puisque tu en es à ton 8e podcast en 10 jours.
Non, 7e.
D'accord. Bah, 7e. Là, ça va être ton 7e, donc...
Là, c'est le 7e. Mais j'ai déjà réfléchi, hein, il y en a déjà 4 cette semaine. Donc c'est bien. Peut-être 5, je sais pas encore.
Oui, parce qu'on n'a pas discuté de la date du prochain spécial. Je sais pas si on fera un Comics Weekly, donc tout va bien.
Ah bah je l'ai compté. Je l'ai compté le prochain spécial.
Greg me dit si Steve, tu vas faire un Comics Fair, ouais.
Avec plaisir, pourquoi pas.
Après. Comme j'ai dit, si le podcast te manque.
Après, je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre partout, donc. Si, ferme ma gueule. Alors, ce soir, le thème de ce soir, on en avait déjà parlé lors du dernier spécial. Il s'agit de Flash, évidemment. C'est pour ça que je parle très très vite. C'est pour lui rendre hommage.
Et c'est pour ça qu'on est arrivé à l'heure, puisque Flash arrive toujours en retard.
Je suis vraiment désolé pour le retard. Presque 20 minutes de retard. J'avais du monde à la maison et on n'a pas vu l'heure parce que changement d'heure, donc on fait plus gaffe parce que la luminosité n'est pas la même, et surtout mon enculé de PC qui voulait pas marcher, le micro n'a pas été reconnu, il a fallu que je redémarre et le PC ne voulait pas redémarrer, donc j'ai eu une petite frayeur, je vous avoue, l'espace d'un instant, des mauvais souvenirs qui sont remontés d'un coup, et puis bon, bah ça, apparemment tout va bien, donc
Tomic me dit j'en ai pas marre de vous entendre, donc ça va.
Tant qu'il en a pas marre de pas nous entendre, tu vois. Est-ce qu'on peut pas faire des émissions 24h sur 24, s'il vous plaît? Bon, on le fait parce que ça nous fait plaisir, hein. Si ça nous faisait chier, on le ferait pas, de toute façon. Donc ce soir,
Greg, il dit, moi j'en ai pas marre de les entendre, mais comme pour ma dose d'héroïne, je peux pas décrocher. C'est bien, on est une drogue dure maintenant.
Il est enculé marqué son PC, il y a que deux possibilités, toi ou Gizmo. Ah, je vous laisse imaginer les choses. Rien ne prouve qu'on ne fait pas des queue leu-leu.
Que fait Gizmo quand tu n'es pas chez toi? Tu ne le sais pas, hein.
Il dort, je pense.
Oui, mais est-ce qu'il dort sur ton PC?
Oui, il doit dormir comme il le fait actuellement, en me regardant d'un air triste sur le canapé, genre, je voulais sortir, moi. Pourquoi tu fais un truc? Je voulais sortir.
Tu ne m'as sorti que 12 fois aujourd'hui.
Non, quand même, soyons raisonnables, 10 fois. Donc le thème de ce soir, c'est Flash. On va revenir un peu comme on avait fait sur les précédents spéciaux, non pas forcément sur l'intégralité de l'histoire de Flash, parce qu'en plus c'est très compliqué, mais sur les runs qui nous ont marqués, sur comment on a découvert le personnage, voilà, histoire de partager un petit peu. Prenons aussi vos réactions, vos arcs ou runs coup de cœur sur le personnage, ce qui vous a marqué sur ce personnage. On va parler d'un petit peu tout ça, et on va surtout répondre à un grand combat, un combat qui n'était pas prévu. Et oui, j'en ai pas parlé à Sam, mais là, il va y avoir du fight. Il va falloir qu'on réponde à cette grande question. Le combat des titans. Mark Waid versus Geoff Johns.
Ah ouais, c'est la question que je me suis posée également lors de ma relecture, refeuilletage de tout ce que j'ai, en fait. Et c'est vachement dur à décider, parce qu'en fait, ils ont chacun leur force. Et ils ont chacun leur rapport, et c'est deux runs qui se complètent de manière merveilleuse et qui sont en même temps extrêmement différents.
Ah ouais, il y a énormément de différences, et on va pouvoir se bastonner un peu. Enfin, se bastonner. On aura peut-être le même avis au final, parce qu'on n'en a pas parlé avant. À savoir que, justement, volontairement, on ne se parle pas de nos arcs coup de cœur pour avoir le côté découverte. Si ça se trouve, on aura peut-être choisi les mêmes. Ça va peut-être, c'est possible, mais on s'en parle pas avant pour justement nous garder la surprise. Je sais déjà que la découverte de Flash, Sam, on a peut-être la même.
On a commencé. C'est d'ailleurs l'un des trucs dont on avait parlé il y a quelques années, c'est qu'on a commencé à collectionner les épisodes avec le même numéro.
Alors oui, pour ce qui est de la lecture, mais bon, on va y venir. Donc il y aura tout ça, donc n'hésitez pas aussi, hein, sur le chat à nous faire partager vos coups de cœur, comment vous avez découvert le personnage, ce qui est intéressant. Et je pense que Sam, je vais prendre la main pour commencer. Je vais prendre la main parce que je pense que bon, notre découverte de Flash doit être sensiblement la même, mais je suis sûr que tu n'as pas pensé à remonter aussi loin.
Vas-y.
Ma découverte de Flash, c'est la série télé, mec.
Ah oui, idem.
Voilà, c'est ça. Et je crois qu'on peut pas remonter plus loin. Enfin, même si, comme je l'avais déjà dit,
il y a Super Friends avant, mais.
J'ai jamais regardé Super Friends.
C'est pas notre génération.
J'ai jamais regardé Super Friends. Ça a été vraiment la première série avec John Wesley Shipp. Série qui était, alors, sans mauvais jeu de mots, certes un peu cheap, mais franchement, qui était.
Ah, il y avait du moyen.
Qui était pas si mal que ça. Alors oui, il y avait quelques libertés prises avec avec le personnage, mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'on en savait ? On n'avait jamais eu un comic de Flash.
C'est ça, oui.
La série avec le papa de Dawson nous dit Grey, mais c'est ça.
Oui.
Mais c'est ça. Et Tommy nous dit aussi, j'ai découvert Flash avec la série télé. Mais c'est ça, c'est qu'on est à peu près tous de la même génération, donc on a cette série date de 90, elle a dû arriver en France bah 91, 91 peut-être. J'ai pas regardé la date, j'ai pas été voir.
Ça me semble que c'était ça, 91, 92.
Et ouais, c'était marquant. Putain, on avait un super-héros à la télé.
Chaque semaine.
Et c'était cool.
Avec des moyens.
Ouais, c'était cool. Il y avait des histoires qui étaient vraiment sympas. Il y avait toute la galerie de personnages de Flash que tu connaissais pas forcément, mais que t'as appris à découvrir.
Déjà Mark Hamill.
Et Mark Hamill, exactement. Mark Hamill. Non, c'était. Ça, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur quand j'étais gamin. Mais j'y repensais justement en réfléchissant à ce dont j'allais parler pour cette émission. Mais je veux pas dire, ouais, comme c'est vrai que souvent, on a toujours cette tendance à dire notre génération, surtout quand tu penses à quand t'es enfant, notre génération était bénie des dieux, on avait ça. Mais sans déconner, sans vouloir avoir ce discours très cliché, putain, les années 80, c'était une mine d'or à imagination pour les gamins. Regarde toutes les séries qu'on avait. Alors, Flash, effectivement, c'est même le début des années 90. Mais c'était notre enfance, quoi. On avait du Supercopter, on avait du K2000, on avait du Tonnerre Mécanique, on avait plein de trucs pour te faire rêver quand t'étais gosse. J'ai pas l'impression qu'il y a ça, vraiment, qui te permette de rêver aujourd'hui, quoi.
Pour les gosses, je veux dire, pour le public plus jeune, j'ai pas l'impression également. C'est soit c'est très tout public, en fait. Donc, on essaye de... Ah oui, Greg dit Manimal.
Ah, mais Manimal. Manimal, putain, cette transformation. En panthère et en aigle. Ouh là là.
C'était quelque chose. Mais c'est vrai que c'est plus tout public, en fait, aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, on avait plus de choses qui nous étaient adressées directement.
Et Greg qui rajoutait qu'il passait et repassait dans Samedi est à vous. Mais c'est ça. Et le pire, c'est que cette série, quand on était jeune, on n'a jamais compris qu'il n'y avait que 6 épisodes. C'est une série qui avait pas marché. Elle avait pas marché du tout. Et chez nous, il l'a tellement multidiffusé qu'on a l'impression que ça a duré des années, l'animal. Pas du tout. C'est terrible. Et c'est vrai que, ouais, c'est une rencontre. Et pour faire rêver un gamin, enfin. Quand tu vois un dessin animé, ouais, c'est cool. Mais là, c'est en vrai, quoi. C'est des véritables acteurs et tout. C'est trop bien.
Oh, Jonas, qui me brise le cœur, mais qui malheureusement a raison. C'est que sur Super Counter, tu le revois avec tes yeux d'adulte. Tu
dis... Ah oui.
Ouais, mais en fait, c'était tout le temps la même chose, en fait.
Bah,
avec toutes les mêmes shots, en fait, réutilisés 150 fois dans tous les épisodes.
Oui.
Mais à l'époque, ça passait.
Et Jonathan qui nous dit, donc, justement, il nous disait Supercopter, c'était de la belle chiasse quand même. L'autre qui jouait du violoncelle et derrière tirait sans sommation sur des pauvres terroristes qui essayaient juste de faire leur métier.
Mais, c'était innocent.
Mais c'est vrai qu'effectivement, c'était tout pourri, Supercopter. Mais quand t'es gamin, ça te fait rêver. Un hélicoptère qui va super vite, comme K2000, la voiture qui va super vite et tout. T'es obligé de rêver avec ça quand t'es gamin, quoi. Forcément, ça t'emmène. Et Pascal qui nous dit surtout, quand on sait le pourquoi de l'arrêt de la série Flash à la fin de la première saison, ouais, prends-moi pour un con le coup de la série, alors à la bandeau. Effectivement, ça c'est des choses qu'on apprend après quand on est plus grand, que malheureusement, alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant, oui, la raison officielle a été que la série coûtait trop cher. La véritable raison, c'est que John Wesley Shipp a avoué son homosexualité et que bah, c'était pas une époque où c'était bien vu.
Voilà.
Donc on l'a gentiment mis au placard. Alors qu'il venait d'en sortir, le pauvre. Moi je sais pas, bon,
c'est vraiment dégueulasse. C'est d'ailleurs bien qu'il ait pu rendre justice dans la dernière série Flash en cours, puisque ils lui ont réservé un rôle très particulier. Je sais que ça date de plusieurs années, mais j'ai beaucoup apprécié la manière dont ils avaient tourné les choses.
Après, on aura eu d'autres séries qui ont bercé... c'est peut-être un peu plus loin dans notre enfance, mais... Flash m'avait aussi préparé à autant aimer Lois et Clark, quoi. c'était le retour du super-héros à la télévision en live action, pas juste en dessin animé, et c'était vraiment cool.
Moi, ouais, le début des années 90 quand même.
Ah bah Tommy, Tommy ne savait pas.
Dans les produits dérivés, on avait pas mal de trucs.
Tommy nous dit sérieux, c'est pour ça que la série était arrêtée, il ne savait pas. Et ben donc tant mieux, ouais. Au moins ça veut dire que j'ai bien fait de raconter cette anecdote, je pensais que tout le monde le savait plus ou moins. Et c'est pas plus mal. Au moins ça aura servi au moins une personne et c'est cool. Tu vois, on aura été d'utilité publique ça.
Oui.
C'est beau. On peut pas être financé par le gouvernement. Loïs et Clark, j'étais trop vieux par contre, nous dirait.
Pour ça, Grey, je lui dis, non, tu veux dire trop jeune, en fait.
Ben, moi, j'aimais bien.
Oui, moi aussi.
Honnêtement.
La première saison était sympa, en fait.
Puis merde, Terry Hatcher, quoi. Oh. Oui. Oh, Terry Hatcher. Déjà que rien que dans Flash, et je suis en train de retrouver le nom de cette actrice, parce que je ne m'en rappelle pas, la série télévisée. Oui, parce que j'ai pas fait la recherche avant. Oui, c'était Amanda Pays. Amanda ou Pays,
ouais,
je ne sais pas,
sympa.
Comment, qui jouait Tina McGee et oh là là, quand j'étais jeune, oh là là.
Moi, ouais, j'étais plus Terry Pratchett.
Terry Pratchett. Terry Pratchett. Ah oui, Sam nous avoue donc.
Ça aussi, je suis plus Terry Pratchett, mais c'est Terry Hatcher.
Mais non, mais enfin, je veux dire, moi, le docteur McGee, quand j'étais jeune, c'était oh là là.
Effectivement, bon, il y avait.
Premier
c'est
émoi,
marrant de te dire ça en te disant ouais mais il y avait quand même une tension sexuelle à couper au couteau entre les deux personnages, tu te dis ouais mais c'était en fait que dans un sans sens en fait.
c'est et Dieu sait qu'elle en a vu du pays, nous dit Eliju. Non mais c'est vrai qu'honnêtement c'était un de mes premiers crushs d'enfant quoi. Bref, donc ça moi c'est ma première rencontre avec Flash. Ma première vraie rencontre, c'est comme ça que j'ai découvert le personnage, que j'ai appris à l'aimer. Malheureusement, cette série n'aura pas été beaucoup rediffusée quand on était jeune.
Malheureusement, oui.
Et ça a été ensuite un long moment pour moi sans Flash. Jusqu'à ce que, comme la dernière fois, quand j'en parlais pour la JSA, j'ai découvert les vieux Reddit Artima de mon père où il y avait tous les premiers numéros de Flash. Ce qui fait que mon premier Flash, réellement, ça a été Barry Allen. Ça a été les premiers numéros que j'ai lus. Mais mon flash de cœur, c'est Wally West. Non, mais mon flash de cœur, oui. C'est Wally West. Voilà.
Ouais, mais en fait, moi, je suis passé directement de. Bah, c'était Barry Allen dans la série télé, mais ensuite, je suis passé à l'animé, donc Justice League, où c'était Wally West. Donc. Et d'ailleurs, on remarquera que la caractérisation du personnage, quel que soit en fait le médium, quel que soit en fait le nom du personnage, même quand c'est Barry Allen, en fait, il utilise la caractérisation de Wally. Tout va bien.
Ouais.
Et Greg qui dit voilà.
Non, je vas-y, pas vas-y, relancer, dis, mais non mais dis.
Ah ben bah, lui qui est Tim Barry, donc Tim Buccellato, Venditti et Johnson. Voilà, il nous parle de ces grands runs qui personnellement m'ont complètement perdu. Voilà, mais on va en reparler plus tard quand on avancera dans le dans ce qu'on a aimé, de peut-être dans ce qu'on a moins aimé, mais surtout de ce qu'on a aimé.
Voilà pour moi les premières rencontres. Donc j'ai lu les premiers Flash avec la transformation de Wally en Kid Flash, les premières apparitions de Captain Boomerang, de Mirror Master, de Weather Wizard, tout ce genre de trucs là font partie des premières lectures sur Flash que j'ai eues. Alors, c'est vrai que honnêtement je m'estime extrêmement privilégié, comme sur Daredevil où finalement j'ai lu des numéros importants, j'ai lu les premiers, j'ai lu la mort d'Electra, le mec a le coup de bol infini. Bah là effectivement pour Flash c'était pareil. Alors oui, on a une propension à aimer les héros habillés en rouge, Daredevil, Flash. Et mine de rien, Flash est quand même un personnage ultra important.
Bah oui, parce que c'est lui qui relance le Silver Age chez DC et de manière générale avec les comics, qui introduit le concept de Earth 2. Voilà, les terres parallèles, c'est aussi Flash. Et à chaque fois en fait que on a eu une crise ou un événement qui bouleverse l'univers DC, t'apprends racine à chaque fois dans une série Flash en fait. C'est même une tradition que doit se passer quelque chose d'important dans la série Flash quand on a une crise.
Ouais, c'est clair. Flash a été un véritable moteur à la fois pour DC, à la fois pour l'industrie en général. C'est un personnage ultra important, quoi.
Ouais. Et on va enchaîner peut-être avec là où j'ai commencé personnellement, véritablement, après l'animé, en fait, au début des fin des 90, début des années 2000, j'ai commencé à suivre un certain nombre de comics en VO. Et quand j'ai commencé véritablement à me mettre à DC, donc évidemment j'ai commencé par les grandes figures, et au bout d'un moment, entendant en fait parler du run de Jones, je me suis dit, allons-y, donnons-lui sa chance, et j'ai commencé...
Et t'aurais pas dû T'aurais jamais dû tomber dans la drogue, Sam? Jamais?
Non, au contraire, c'était de la bonne drogue, c'était de la bonne... Bon, elle était chère, mais... Ah, quoi, je crois que c'était déjà de 2,25 à l'époque, donc ça allait. Mais c'était avec le Flash 192... qui était un arc qui introduisait, qui était centré sur Grodd, et qui était absolument magistral. Je crois que c'est l'un des meilleurs sur Grodd que j'ai dû lire encore aujourd'hui. Il n'y a aucun qui lui arrive véritablement à la cheville. Jones avait vraiment le talent pour mettre en scène la dangerosité et le côté sauvage du personnage, surtout dessiné par un Scott Collins qui était ultra inspiré à l'époque, et qui lui donnait, qui rendait vraiment le côté animal du personnage. Chaque fois, voilà... L'idée de Jones, c'était vraiment de refaire du personnage de Grodd, non pas une espèce de blague, mais véritablement une menace absolument terrible que Flash craint véritablement.
Gray a donc entendu la raison et vient de dire le retour de Barry est une erreur, à la fois pour Barry et pour Wally. Ça y est, Gray a vu la lumière au bout
c'est
du
bien.
Tunnel. Après
c'est
des
bien.
Mois de troll de Team Barry, hashtag Team Barry.
On en parlera plus tard, mais le problème essentiel du retour de Barry, alors, c'est que ça annule l'une des plus grandes morts de l'histoire des comics, l'une des plus connues, l'une de celles qui a duré le plus longtemps, en fait, parce qu'il est resté mort de 86 à 2008, donc plus de 20 ans.
Il était revenu, il était apparu de temps en temps dans les pages de Flash, mais toujours en termes de fantômes. Et alors, malheureusement, enfin c'est vrai qu'on ne veut pas forcément faire l'historique de tout le personnage, mais là on va être un peu obligé, c'est un peu complexe, Flash, plus complexe en tout cas que Daredevil. Ce qu'il faut savoir sur Barry, effectivement, il a eu à toute la période Silver Age, hein, Showcase numéro 4, puis la série qui reprend...
C'est 59, il me semble, quelque chose comme ça, 59-60.
Ouais, possible.
Et au tournant des années 50-60...
Je me demande si c'est pas 56.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, il y a plusieurs générations de Flash à travers le temps. Donc on a Jay Garrick en premier, qui doit être fin des années 30, début des années 40. Ensuite, on a la relance... avec Barry Allen, 1960-1961, ça doit être dans ces eaux-là.
Je crois que c'est 56, en fait... le Showcase 56.
Ah, 56.
Ouais, c'est 1956, je crois. J'ai pas vérifié, mais ça doit être ça. Attends,
et en fait, de 56 à 86, le seul Flash en activité, même si Jay Garrick vient faire coucou de temps en temps, mais c'est le Flash de la Terre 2.
Octobre 56, voilà, j'ai été vérifié. Voilà. Et Pascal vient de nous le confirmer également.
C'est ça. Et... Pendant plusieurs décennies, c'est donc le seul Flash de l'univers DC officiel, jusqu'au début des années 80, où en fait sa série a de moins en moins de succès, comme une bonne partie de l'univers DC, parce que c'est un foutoir sans nom à ce moment-là, voit sa série annulée, et au moment de Crisis, quand les responsables et les scénaristes commencent à se dire « bon, on va faire un grand ménage, et on va peut-être se débarrasser de personnages certes importants, mais qui concrètement à l'heure actuelle n'ont plus de succès », Barry Allen était en tête de liste, avec près derrière son remplacement avec Wally, et l'idée, ben on va relancer, et on va lancer un nouveau titre avec ce personnage-là. Et c'est vrai que c'est très symbolique, puisque tu as Barry qui meurt, l'initiateur du Silver Age, qui disparaît avec Crisis. Donc c'est un signal fort envoyé par DC de dire nous terminons véritablement une ère de notre histoire et nous en débutons une autre.
Ouais, mais il y avait un truc important dans la vie de Barry. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne dessus, parce que ça explique aussi pourquoi Barry est apparu dans la série ensuite avec Wally, même s'il était censé être mort. Il y a eu le moment où le mec a tué son ennemi.
Horton.
C'est ça. Il a été obligé de le tuer. Bon, décision. Et donc Barry est passé en procès. Il a fini par s'en sortir et il s'est aperçu que, parce que Zoom avait tué le Reverse Flash avait tué sa bien-aimée, avait tué Iris, sauf que on a appris par la suite que Iris était en fait une meuf qui venait du futur, venait du 30e siècle. On va m'expliquer avec la Légion comment ça se passe, mais c'est pas grave. C'est toujours la question que je me suis posée.
Quand je vous dis que c'était le bordel.
Comment ça se passe avec la Légion, puisqu'elle vient du 29e siècle, du 30e siècle d'ailleurs, elle vient de 1995. Donc, et la Légion, elle était censée être là, mais elle la croise pas. C'est DC, faut pas chercher. Hein, c'est des futurs de terres parallèles, de futurs parallèles, de terres parallèles. à peu près, dans des dimensions alternatives, évidemment.
Et c'est la continuité qui existe dans l'épisode qu'on vous vend, mais pas au-delà.
Et donc, Iris était en fait une personne qui était venue du futur, que ses parents avaient envoyé dans le passé pour la protéger de je ne sais quelle maladie. Et finalement, elle est, au moment où elle mourait, sa conscience a été retransférée dans le futur et ils ont pu la remettre dans un autre corps. Et elle revient voir Barry dans le présent, alors qu'il commençait à engager une autre relation, qu'il allait se marier, etc. Et finalement, Barry va la suivre dans le futur. Il ne restera qu'un mois avec elle. C'est important puisque on va venir à cette partie-là plus tard dans ce dont on va parler. Et partira ensuite, reviendra dans le passé pour Crisis et pour se sacrifier afin que la réalité ne meure pas.
Simple, donc, hein. C'était simple.
C'est pour ça que Barry peut aussi apparaître de nombreuses fois, de nombreuses fois, pas si nombreuses que ça d'ailleurs. Ils ont pas trop abusé sur le concept.
Non.
Mais peut apparaître de temps en temps, soit en image fantôme devant Wally, mais aussi en tant qu'être humain réel, puisqu'il est juste revenu dans le temps pour discuter avec Wally à un moment et repart dans son époque, ne voulant pas trop fucked up le time stream. Ce qui est bien. S'il avait pu garder toujours cette mentalité de pas vouloir fucked up le time stream, hein?
Oui,
Barry.
C'est bizarre comme les personnages évoluent et pas en bien.
Et Tommy qui nous dit, mais c'est complètement tiré par les cheveux de ce truc avec Iris. Oui.
Oui.
Oui, mais c'est parce que, après avoir tué la petite amie du héros, enfin la femme même, parce que je crois qu'ils étaient déjà mariés.
Oui, ils étaient mariés depuis des années.
Quand on l'a tué et qu'on s'est rendu compte que les lecteurs n'appréciaient pas du tout ça, et de le voir se mettre avec une autre femme et envisager peut-être le mariage, etc., ça n'a pas plu et il a fallu trouver un moyen de le ramener.
Mais c'est voilà, ça ne fait que renvoyer à l'état de décès pré-crisis au début des années 80, où en fait personne comprenait plus rien.
Hein, tout ça. Et Bastien qui dit oui, enfin Barry c'est un salopard.
Moi je me souviens dans l'anthologie Wonder Woman, il y a un épisode de la série pré-crisis du début des années 80 que Pluroban a publié. Ça fait plus de 20 ans que je lis des comics, je n'ai rien compris. Parce que tu as des personnages où on t'explique dès la première page qui viennent d'une terre parallèle, mais pas complètement, et qui sont mêlés à des trucs. Dans... Quoi ? T'as même pas entamé le bouquin, première page, tu comprends rien. Donc effectivement, c'était important de, on va dire, de nettoyer un peu, hein, parce que. Ouf. Voilà, donc revenons.
Alors, je vais prendre tout de suite ce que disait Grépigeon, parce que c'est vrai que je voulais en parler en fin d'émission, mais après tout, autant en parler maintenant, parce que le sujet vient sur le chat. Il nous dit, sinon rien à voir, mais Marvel et DC vont publier leurs comics en numérique cette semaine. Donc il y aura un comics weekly. Oui, à partir du moment où j'ai vu que DC publiait au moins des comics, même s'il n'y avait eu que des comics DC, on aurait au moins fait une petite émission de review, peut-être rapide, mais on aurait fait quelque chose. Là, si Marvel qui publie aussi, on va les traiter, clairement. Effectivement, le weekly sera peut-être un peu plus court que d'habitude, parce qu'il y a moins de titres.
Marvel, par contre, j'ai pas vu. DC, je l'ai vu, donc c'est pour ça que j'ai fait le guide VO uniquement avec DC. Mais si Marvel est là...
Donc voilà, on fera quand même le comics weekly tant que les comics sortiront numérique, de manière à ce qu'on ne prenne pas de retard nous aussi sur les sorties et qu'on n'ait pas tout à traiter quand le confinement sera terminé, parce que sinon si on a 2 mois de comics à rattraper d'un coup, ça va être le bordel quoi. Ça va être ingérable. Là, il va nous falloir 8 émissions. Enfin, ça va être insupportable.
Plutôt oui.
Donc voilà pour ce qui est de Barry, pour vous placer le truc. C'est quand même un événement important. Alors je sais que ce sont des épisodes. J'ai essayé de les lire et j'avoue que j'étais un peu rebuté par le ciel des 70. J'étais peut-être pas dans des bons jours. J'ai pas essayé de les relire. Je me suis reconcentré que sur des choses que j'avais déjà lues ou des choses un peu plus récentes. Mais c'est quand même un tournant assez important d'avoir un personnage principal qui tue son ennemi et qui passe en procès quoi. Ouais. C'est pas des choses qu'on voyait souvent à l'époque.
Avec Wally qui dit non, il a eu tort.
Oui, en plus, trahi par son propre sidekick, quoi.
Ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était. Hein. On peut même plus tuer sans qu'il vous dénonce.
Salaud. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me vends. Salaud.
Donc.
Voilà, donc on va revenir un peu sur Wally. Alors, tu parlais du Flash 192. Il y avait des épisodes que j'ai lus avec Flash avant. C'était les Flash qui étaient publiés dans Strange par Semic.
Ah oui, j'en ai vu quelques-uns aussi.
Qui était par Mark Waid au moment où
Mark
il passe.
Waid et Paul Smith.
Voilà, et au moment où il va quitter Keystone City parce qu'il n'est plus le bienvenu, il va s'installer à Central City. Qui lui fait un pont d'or.
Non, c'est une ville de la côte.
Ah oui, c'est une ville de la côte. Oui, pardon. Excuse-moi, je dis du caca.
Ah ben je sais, je l'ai lu il y a pas longtemps. Donc
moi, ce sont les premiers épisodes de Flash que j'ai lus de un peu plus vieux et dont je me souviens vraiment de ces épisodes-là. C'est très difficile de rentrer dedans parce que t'arrives un peu au milieu de nulle part. Tu vois qu'il y a plein de personnages, il y a un cast secondaire qui est déjà bien établi. T'arrives à prendre le train en cours de route, mais c'est quand même pas super simple. Et d'ailleurs, ça n'a pas très bien marché puisqu'ils auront très vite abandonné Flash pour mettre autre chose à la place. Ils ont dû publier, je crois, 4-5 épisodes, quelque chose comme ça, puis ils ont vite arrêté. Ce qui est dommage.
Bah oui, mais en même temps, c'était sur la fin du run, enfin pas la fin, la fin du premier run de Waid sur la série, où effectivement, comme tu le dis, il y a énormément de choses qui sont en cours. Donc c'est très difficile en fait d'arriver à ce moment-là. C'est pas impossible, mais compliqué.
Et donc après, effectivement, ce Flash 192 dont tu nous parlais.
Voilà. Flash 192 qui lance véritablement une... J'allais dire, moi, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, c'est le début d'une année de folie absolue. Et en fait, quand j'ai rattrapé le run de Jones ensuite, je me suis rendu compte que ce n'était en fait que le début d'un pic qui allait mener jusqu'au 200, puisqu'en fait, la grosse intrigue qui véritablement est le sommet, l'un des sommets pour moi du run de Jones, c'est l'intrigue qui est l'arc important précédent, qui s'appelle Entre deux feux en VF, et qui voyait en fait Flash faire face à toute une série de menaces, mais tout en même temps. Voilà. Qui prenait possession à la fois de Central City et de Keystone, et qui était en fait la résultante de quasiment 2 ans de mise en place par Jones, qui avait égrené un peu partout des tas de choses, et que j'ai relu ce week-end, et qui est impressionnante. Sans doute l'un des meilleurs trucs que Jones ait fait tout court, en fait.
C'est marrant, quand on en a parlé plusieurs fois, comme tu le disais un petit peu avant, Sam, c'est un épisode qui nous a marqué tous les deux, parce que c'est plus ou moins notre point d'entrée à tous les deux dans Flash. Parce que moi, à partir de ça, j'ai lu ça à l'époque où j'étais au Pays de Galles, et la bibliothèque du Pays de Galles, dans la ville où j'étais, avait pas mal de comics que tu pouvais emprunter et lire, et ils avaient toute cette partie-là du run de Jones, et j'ai dévoré les TPB, et c'est à partir de là où je me suis mis à Flash de façon beaucoup plus régulière. Avant, je lisais un épisode par-ci, par-là, mais c'était pas la série que j'allais voir.
Ouais.
Et de cet épisode-là, de cet arc-là, j'ai pas lâché, quoi. J'ai pas lâché. Comment tu veux lâcher après avoir lu ça, quoi?
Bah oui, parce que l'arc avec Grodd, il est tellement gigantesque qu'il te met en place toute l'intrigue avec Zoom qui te mène jusqu'au 200 et qui va ensuite nourrir la série sur les 20-25 épisodes qui suivent avec qui mènent en fait à la conclusion du run de Jones. Bon, je dois dire que tout ce qui arrive post-épisode 200, personnellement, j'ai eu beaucoup plus de mal. Je dois dire que tout ce qui arrive avant, j'aime beaucoup. Mais il y a un changement de tonalité, je trouve. Alors, passé le 200, je m'en suis rendu compte en plus. Ouais. Là, en replongeant dans l'épisode.
Va falloir qu'on explique un peu pourquoi, parce que c'est pas forcément évident d'expliquer pourquoi il y a ce changement de tonalité et ce changement d'ambiance.
En fait, on a suite à l'intrigue entre deux feux, à la fin de l'intrigue, juste pour t'assaisonner un peu plus l'arc et le rendre encore plus important, on apprend que Linda est enceinte. Et en fait, dans cet épisode 200, il arrive quelque chose qui va complètement changer le statu quo.
Ah, moi je pensais qu'on allait parler de tous ces épisodes-là, mais je voulais juste parler du coup de l'identité secrète, en fait.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est vrai que c'est pas courant d'avoir un personnage. Autant Barry avait caché son identité, bon, à partir du moment où il y a eu le procès, c'était un peu plus compliqué, mais Barry avait caché son identité, mais Wally, quand il a repris le manteau de Flash, il n'a jamais caché son identité secrète. Tout le monde savait que Wally West était le Flash. Et c'est extrêmement rare d'avoir un personnage qui n'a pas d'identité secrète, en fait.
Oui, et qui a duré quasiment jusqu'à l'épisode 200, justement. Puisqu'à l'épisode 200, Redcon, tout le monde oublie qui est le Flash, compris Flash.
On va venir sur les circonstances, mais grosso modo, il comprend que son épouse a été blessée par sa faute, que l'ennemi s'en est pris vraiment à lui, ce qui n'était encore jamais arrivé jusqu'à présent, ou en tout cas qu'il avait toujours pu éviter. Et là, il va passer un pacte avec le Spectre. C'est One More Day, en fait. Exactement One More Day quelques années avant l'heure.
Ce qui me fait marrer, alors on en parlera tout à l'heure quand on abordera le Run the Wade, c'est que on a déjà un pseudo One More Day dans le Run the Wade.
Ouais.
C'est assez marrant. Et donc, on a cette intrigue. Et en fait, alors, si j'apprécie un peu moins, c'est qu'en fait, outre le retcon, bon, que je peux comprendre, hein, qui est logique dans le cadre de l'histoire, tout ce qui suit, en fait, c'est une reconstruction de l'univers de Flash qui suit. Et j'ai, en fait, quand je l'ai lu, et je m'en suis encore plus rendu compte quand je m'y suis replongé, j'avais l'impression de revenir, en fait, au début du run de John sur Flash.
Ouais.
Où il reposait tout, il reposait les rogues, il reposait tout un tas d'éléments. Donc, si t'es un nouveau lecteur, c'est génial, parce que tu découvres en même temps que tu redécouvres, en fait, cet univers avec, en même temps que Flash. Si t'es un vieux lecteur qui est là depuis des années, tu te dis, mais je connais quoi, ça va.
Et bah, c'est vrai que moi aussi, j'avais eu beaucoup de mal avec cet arc-là. Il est déjà visuellement beaucoup plus sombre.
Oui.
Il y a un changement graphique volontaire. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup le style, mais c'est visuellement beaucoup plus sombre, alors qu'on avait Flash, qui était quand même une série qui se passait quasiment toujours dans la lumière, toujours avec des couleurs éclatantes.
C'est ça.
Il y a toujours eu beaucoup de luminosité. D'un seul coup, non seulement tu as l'ambiance qui change, parce qu'elle est beaucoup plus noire, déjà pour les personnages, en termes d'esprit, mais aussi visuellement. Tu vas au plus profond, le personnage est détruit. C'est la façon de Geoff Johns de déconstruire le personnage. Parce que
c'était volontaire, hein, clairement.
Oui, c'était volontaire, oui.
Dès quand on arrive à la fin justement de l'arc, la fin du dernier épisode de l'arc, t'as un changement entre cet artiste et Ward Porter. Puisqu'on arrive sur le retour de Flash, donc on revient dans la lumière.
Et là où ça avait été très malin de la part de Johns pour complètement déconstruire son personnage, c'est qu'en faisant ce pacte pour oublier l'identité secrète de Flash, donc Hal Jordan, donc Green Lantern, qui était le Spectre à l'époque. Oui, il faut suivre la continuité des essais. Au bout d'un moment, faut s'y intéresser, faut comprendre.
Voilà. Disons que pour resituer un peu pour les gens qui ne connaissent pas, suite à Emerald Twilight, quand Hal a perdu la boule et a acquis tout le pouvoir du Green Lantern Corps, il y a eu une phase où il était,
parallax,
on va dire, dans une zone de gris moralement. Voilà, où il voulait essayer d'arranger les choses, mais c'était en changeant l'histoire et la continuité. Et le personnage finit par entamer son arc de rédemption quand il se sacrifie pour réallumer le soleil dans Final Night. C'est un crossover de l'époque où, grosso modo, si ma mémoire bonne, Sun Eater, qui est un vilain créé par Grant Morrison, bouffait en fait le soleil,
ouais,
ou l'énergie du soleil qui s'éteignait. Et donc, on avait Hal Jordan qui sacrifiait son pouvoir pour le rallumer. Suite à un truc qui s'appelait Judgment Day ou Day of Judgment.
Day of Judgment.
Voilà, qui était déjà écrit par Johns. Donc comme quoi les personnages, l'auteur et le personnage d'Hal Jordan étaient liés, voilà, dès le départ. Hal Jordan donnait le nouvel hôte du Spectre, ce qui a duré en fait jusqu'à Green Lantern Rebirth.
Et donc le Spectre lui propose, il peut pas ramener les morts parce que bah, il a perdu ses enfants à naître. Il lui dit je peux pas ramener les morts. Ça, je peux pas le faire. Par contre, si tu veux, je peux te promettre que tout ceci n'arrivera plus jamais. Et je rétablis l'identité secrète de Flash. Plus personne ne se rappellera qui est Flash. Ça marche tellement bien que même Wally West ne se rappelle plus qu'il est Flash.
Oui, c'est super, super, Al. T'as tout compris.
Et tu vois la dernière page, et ça, je l'ai relu en plus tout à l'heure, donc c'est encore très très frais dans ma mémoire. Tu vois cette dernière page où il y a déjà ce changement visuel, ce changement graphique,
oui,
vachement sombre.
À la fin du 200, ouais.
Et tu apprends que Flash n'est plus là depuis 2 mois. T'as les flics qui partent sur un cas et ils disent « on sait pas où est passé Flash depuis 2 mois ». Et Linda pose la question à Wally en lui disant « mais où est passé Flash depuis tout ce temps ?» Et Wally dit « aucune idée ». Il ne se rappelle même plus qu'il est Flash. Et il va y avoir tout un arc qui va lui permettre de se reconstruire, de retrouver son identité, de recomprendre qu'il est Flash. Mais c'est assez long. C'est une très bonne déconstruction du personnage. Mais après tout ce que tu viens de vivre, notamment tout ce gros arc, enfin même ces deux arcs entre Grodd puis l'arrivée de Zoom, c'est un tel changement radical de ton que...
Ah mais moi je pourrais remonter ça jusqu'à, je te dis, l'arc entre deux feux. Tu sais qu'il y a l'arc avec Penseur et le Network qui conquiert Keystone et Central City. On a vraiment Geoff Johns qui... arrive à maîtriser ce qu'il voulait faire en fait sur la série, à savoir faire des grosses histoires vraiment épiques. Ce qu'il fait en fait sur JSA ou ce qu'on verra ensuite sur Green Lantern, qui sont des grosses histoires de super-héros quelque part assez classique, mais avec un vrai souffle épique derrière. Et là, en fait, tu passes effectivement d'un truc énorme avec des grosses intrigues à un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus intimiste, qui est une espèce de reconstruction assez étrange, mais qui est pas trop du super-héros. Et c'est abrupt, hein.
Ouais. Et c'est là qu'on voit les approches très différentes. Il y a vraiment deux auteurs majeurs sur Flash. Enfin, je vais pas prendre en compte les. Je vais prendre jusqu'à Flashpoint en fait, parce que on va pouvoir mettre les scénaristes d'aujourd'hui dans la boucle. Mais franchement, il y a deux auteurs majeurs. Il y a Mark Waid et il y a Geoff Johns. Il y a eu d'autres très bons auteurs avant. Hein. On va pas nier leur travail. On parlera de Bill Messner-Lobbs tout à l'heure, ouais. Évidemment.
Matt Baron qui avait relancé la série.
C'est
deux auteurs qui ont porté la série à de nouvelles auteurs. Parce que on va enchaîner, je pense, sur Waid qui a commencé, en fait, qui était avant Jones. Mais la chance qu'on a eue quand même d'avoir, parce que de mémoire, Waid arrive à l'épisode 69.
Je crois que je me demande si c'est pas 66. Il fait Year One. De toute façon, là, qu'il arrive, il fait Year One.
C'est ça.
Il fait Flash 66. Year One, direct.
Geoff Johns finit au 225, parce que Johns, de toute façon, Waid arrive en 1992-93, Johns part en 2007, ça fait quasiment 15 ans d'un run qui est tellement une référence.
62, nous dit Tommy.
62, voilà. Qui est tellement une référence, en fait, les deux ensemble, que quand je lis, par exemple, Flash Rebirth de Joshua Williamson, J'ai vraiment l'impression par moment de relire un auteur qui essaye de recapturer en fait ce qui a été fait à l'époque.
Il y a Greg qui n'arrive pas sur un spécial ou un annual. Alors oui, il avait fait ça avant, mais c'est vrai que moi je le compte pas dans le run. Je compte le début du run dans la partie ongoing quoi. Je compte pas les annuals ou les spéciaux.
Donc c'est vrai. Et alors pour on va enchaîner un peu sur Waid pour resituer un peu le contexte. Quand en fait Waid arrive, DC t'a un doigt en fait d'annuler la série Flash parce qu'elle ne se vend plus à cette époque-là. Faut dire que grosso modo l'année 90-91 c'est un peu anus horribilis pour DC, c'est-à-dire que plus rien ne se vend, c'est une catastrophe. Et il y a vraiment une pression de la part des lecteurs pour débarrasser-nous de Wally, ramener Barry. Voilà, c'est les quelques lecteurs qui restent veulent ça. Et même Mark Waid qui récupère la série. Ouais, mais dit, mais moi aussi je veux ramener Barry. Et il y a une espèce de veto au sein de DC de pas trop essayer de revenir trop en arrière. Et Mark Waid va faire un peu à la fois son deuil de Barry. Et il va se dire, mais est-ce qu'en faisant moi mon deuil de Barry, est-ce que ce n'est pas la meilleure base justement pour relancer la série, de dire il faut que Wally devienne véritablement Flash. Il faut qu'il devienne ce qu'il est censé être. Il faut qu'il arrive au niveau. Il faut qu'il arrive de se sortir de l'ombre de son prédécesseur pour devenir le héros qu'il peut être. Et autant en fait les débuts de Mark Waid sur le titre, j'en ai parlé quand j'ai acheté le premier TP puisque c'est disponible en VO dans les TP Flash par Mark Waid. Autant les premiers épisodes sont vachement durs. C'est très mal vieilli.
Il met du temps à s'adapter en fait.
C'est ça. À trouver la voie de Wally.
Il passe après un auteur qui a pour moi énormément marqué le titre, William Messner-Lobbs, qui on a trop tendance à l'oublier quand on parle des runs majeurs de Flash, mais il a donné vraiment toute cette ampleur à Wally en faisant de Wally un connard. Wally est un être égocentrique.
C'est Mike Baron en fait qui avait lancé ça au début quand ils avaient relancé la série. Et en fait, Messner-Lobbs a justement continué là-dessus en disant, certes il était dans les Titans avant, mais alors il y a tout l'arc où il devient riche en fait au début de la série et en fait tout ça lui monte à la tête. Ouais. Voilà, il est le remplaçant de Barry, il est le nouveau Flash, il est riche, il mérite tout ça, donc il est forcément le meilleur et il est génial. Sauf qu'il fait un paquet de conneries et il est imbuvable en fait. le personnage est imbuable de manière volontaire. Les auteurs font ça de manière volontaire pour justement créer un arc, en fait, pour le personnage. Montrer sa progression au lecteur. Montrer comment, à travers toutes les erreurs qu'il va faire, que ce soit dans sa vie professionnelle en tant que Flash, parce qu'il va en faire, que dans sa vie personnelle, parce qu'il va avoir un certain nombre de relations avec des femmes, qu'il va traiter comme de la merde.
Ah oui, clairement.
Ça, faut pas le dire autrement, qu'il va traiter comme de la merde et comme un gros connard. Arriver à un point où quand Mark Waid arrive, il a déjà commencé à changer.
Oui, il a déjà commencé à évoluer. Mais il y a aussi un truc majeur dans les runs de Baron et Messner-Lobbs, c'est qu'il a complètement changé la galerie de vilains de Flash. C'est-à-dire que tous les anciens ennemis de Barry, après la mort de Barry, après le sacrifice qu'il a fait, n'ont plus la foi de rester des vilains, en fait. Et vont tous plus ou moins se réformer, quoi.
Voilà, certains se sont carrément réformés. C'est d'ailleurs pour ça que...
Le Pied Piper, par exemple, qui est le meilleur exemple, qui est, je veux dire, le meilleur ami de Wally, presque, à la fin, quoi.
Ah oui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant et l'une des différences entre Wade et Jones, c'est que Wade évitera, en fait, durant presque tout son run, de ramener ses personnages, à part quelques-uns. Je pense à Abracadabra, parce que Wade avait un faible pour le personnage. Et je crois que c'est à peu près tout.
Ah, il utilise beaucoup Abracadabra, hein.
Voilà, ouais, un peu trop. Chaque scénariste de Flash a son vilain préféré qu'il va mettre en avant. Abracadabra était celui de Wade, et d'ailleurs il va très très bien l'utiliser, et ça, de manière extrêmement marquante pour le personnage. Et en fait, Jones, lui, il sera dans une toute autre approche où il dira, mais en fait, je vais ramener tous ces personnages. Voilà. J'ai ramené tous les Rogues, et je vais les rendre à nouveau pertinents.
Il y a Tommy qui nous rappelle le Pied Piper qui fait son coming out, d'ailleurs, effectivement. Ça fait partie aussi de ces rares personnages dans les années 90 dont on connaissait l'orientation sexuelle différente, puisque de base, tu imaginais que tous les personnages étaient hétéros, ce personnage-là était clairement et ouvertement déclaré comme gay. Et c'était pas courant.
Et comme je dis, je viens de quasiment tout lire de Wade, ça a été fait sans grande pompe. C'est-à-dire que un jour, on a... Linda qui est avec Wally en train de déjeuner, et ils sont en train de déjeuner avec Harley, donc Harley qui est le... Pas Harley Quinn, hein. Harley c'est le prénom du personnage du Pied Piper, et son petit ami. Voilà, et c'est comme ça que tu l'apprends. C'est juste posé comme ça, voilà, et c'est dans le cadre d'une scène où les deux sont dans un rencard, voilà. Terminé, il n'y a pas de grande annonce, pas de journal où dit « oui, il y a un personnage gay dans Flash », non, c'est juste là.
Mais à l'époque, c'était pas un argument de vente, non.
Pour moi, c'est comme ça que ça devrait être fait. Voilà. Comme dans la vraie vie, hein.
Quand tu parlais tout à l'heure du premier arc de Wade et du premier TP de Wade qui était un peu rude, il y avait Gray qui nous disait tout à l'heure, je suis au milieu du deuxième TP de Wade et il est bien meilleur que le premier. On avait Bastien qui nous disait, alors j'essaie de retrouver le truc, il nous disait, oui, je n'ai aimé que le dernier arc de ce premier TP de Wade.
Ouais, comme je dis, c'est très très rude parce qu'en fait, à la fois il met des choses en place sur le personnage et la mythologie générale, autant il a du mal en fait à trouver le bon ton et le bon rythme. Et en fait, pour moi, le déclic, le moment où la série devient vraiment et que son run pour moi vraiment commence, c'est The Return of Barry Allen, le retour de Barry Allen. Cet arc, il est magistral. En plus, c'est le dernier de Greg LaRocque, l'artiste pour lequel j'ai une grande tendresse.
Greg LaRocque, on oublie, c'est un mec qui a dessiné Flash pendant quasiment 80 numéros.
Ouais, ce qui est énorme. Nous, aujourd'hui, on se plaint d'artistes qui ne restent que même pas 6 numéros sur une série. Le mec est resté... tu me diras, sur Flash, c'est une tradition d'avoir des artistes qui restent longtemps, et qui, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, il y a en 2000... T'avais Scott Collins et Howard Porter qui dessinent Flash. Donc en 2020, c'est Scott Collins et Howard Porter qui dessinent Flash.
Greg LaRocque est très bon en plus, nous dit Bastien.
Très très bon.
Et Greg qui nous partage aussi des potins, hein, qui nous dit que Greg est le frère de Michel.
Oui, c'est bien.
Voilà. moi, cette blague, elle m'a fait rire, donc je la voilà.
C'est une idée. Mais en fait, ce qui est vraiment bien, c'est qu'en plus, parce que le retour de Barry Allen est son dernier arc sur la série, il livre son meilleur boulot, en fait. D'une part, parce que je sens, il savait que c'était son dernier arc, donc je pense qu'il a vraiment voulu marquer le coup. Mais en plus, parce que cet arc est magistral. Tu as un personnage qui prétend être Barry Allen, qui prétend revenir à la vie après, voilà. Et tu as un Wally qui est en pleine crise à ce moment-là, parce qu'il ne sait plus est-ce que je dois rester Flash, qui se rend compte que son idole n'est peut-être pas ce qu'il prétendait être. Et t'as une vraie remise en question du personnage. Le personnage, pour vraiment la première fois, a un cas de conscience, et tu le vois, on va dire pendant deux épisodes, commencer à se dire, mais est-ce que je suis digne d'être Flash pour la première fois? Et sur la fin de l'arc, arriver à véritablement se sortir de l'ombre de Barry, à devenir Flash, véritablement. Et pour moi, c'est là que l'arc commence, c'est là que Mark Waid commence véritablement à maîtriser Wally et à imprimer sa marque sur le personnage et sur sa mythologie. Parce qu'il y a, on ne le dira pas assez, toute la mythologie sur laquelle est construite Flash aujourd'hui, notamment l'idée de la Speed Force,
et on y vient.
C'est Mark Waid.
Et on y vient au moment, le combat des titans, Mark Waid versus Geoff Johns, mythologie contre développement de personnage.
Le truc, c'est que je pense, en fait, que Mark Waid maîtrise mieux la caractérisation de Wally, et il y a eu un plus grand impact sur la mythologie, parce qu'il y a, comme je dis, le concept de la Speed Force, c'est lui. Mais je pense que Geoff Johns, en tant qu'auteur, est un cran au-dessus de lui. C'est-à-dire, dans le récit super-héroïque, c'est très difficile de faire mieux que Geoff Johns. Parce que, dans la manière dont t'as écrit, dont Waid a écrit Flash, en fait, à partir du moment où il a lancé le retour de Barry Allen, chaque année va se construire à peu près de la même manière. Tu auras à peu près 6 épisodes qui seront des one-shots ou des arcs courts où en fait il va te mettre en place des éléments. Et tu auras un gros arc en fait de 6 épisodes qui sera la grosse aventure super-héroïque qui va changer le statu quo et qui, en général, jouait beaucoup avec justement ce concept de la Speed Force, à lui ajouter des éléments, créer des vilains, voilà. Tu as, dans la seconde année, enfin, la troisième, t'as l'arrivée d'Impulse.
Mais oui, faut qu'on s'arrête un peu là-dessus. La création d'Impulse, c'est Mark Waid. Mm-hmm. Et le fait de ramener à Barry, à Wally, pardon, Iris, sa tante. La Iris du futur qui sait ce que deviendra Wally mais ne va pas lui révéler pour pas péter le time stream, qui a accepté la mort de Barry parce que pour elle c'était il y a déjà quelques années. Le personnage d'Impulse qui va devenir un espèce de second Kid Flash sans jamais vraiment être un Kid Flash réel. Tout ça, c'est Mark Waid. C'est pour ça que d'un côté, on a toute cette partie mythologie, construction du personnage, ce que Jones a vraiment su faire sur Green Lantern, hein, clairement.
Oui.
Mais Mark Waid avait vraiment tout lancé sur Flash. Quand Geoff Johns est arrivé sur Flash, lui, tout ce qu'il a fait, c'est développer les personnages.
Il a pris le relais véritablement. Et je pense aussi que c'est pour ça que son premier arc, en fait, et je vais pas dire qu'il n'est pas mauvais. Mais tu sens qu'il a du mal, hein. Comparé à ce qu'il fera ensuite,
Dès son premier arc, Johns, il ramène Captain Cold. Alors certes, c'est une réalité plus ou moins alternative, tout ça, mais c'est le premier truc qu'il va faire. Autant Mark Waid avait continué, il avait peut-être amené un ou deux vieux personnages, mais
oui,
très vite en les remettant loin, il avait gardé ce concept de les Rogues, c'était Barry, et puis Wally, il a ses propres ennemis. Et Geoff Johns, premier truc qu'il a fait, c'est il a réutilisé les Rogues. Qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'ils étaient peut-être frais pour toute une partie des lecteurs, mais...
Ah oui, pour moi, oui, ça l'était. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, ce qui fait que quand t'as un arc sur les Rogues, c'est moins intéressant, en fait. Parce que tu l'as déjà eu 50 fois, en fait, depuis.
Ouais. Et c'est pour ça que je vraiment, il y a ce combat des titans entre mythologie et caractérisation. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Alors, dans le meilleur des mondes, on choisirait les deux, mais si on devait en choisir qu'un. Et j'arrive pas à savoir ce que je préfère. Sincèrement, je me pose la question depuis des jours, je ne sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère quelqu'un qui va augmenter la mythologie et donner vraiment corps à tout l'univers du personnage, ou est-ce que je vais préférer quelqu'un qui va explorer en profondeur la psyché du personnage et le faire grandir?
Ah, pour moi, ça va en fait encore plus loin, parce que comme je te dis, je pense que Wade maîtrise les deux. C'est d'ailleurs pour ça que moi, quand j'ai lu ce run de Wade, il m'a fait retomber amoureux de Wally, en fait, véritablement. Il a une maîtrise du personnage qui est impressionnante, mais je pense que ses intrigues sont un cran en dessous de celles de Jones. Ces grosses intrigues super-héroïques qu'il met en scène, comme je t'ai dit, une fois par an, il a ce gros truc.
Ouais, mais Jones étant basé sur la Speed Force. Jones a pu baser tous ses trucs sur la Speed Force qu'avait amené Wade. Parce que,
il a de nouvelles idées pour l'utiliser, enfin, il développe vraiment le truc, mais il part effectivement de ce qu'a créé Wade.
Donc, c'est très compliqué. Voilà, c'est le combat, c'est la baston, c'est.
Pour moi, c'est en fait mythologie et caractérisation qu'avait Wade contre gros récit super-héroïque ultra maîtrisé de Jones. C'est les deux. Quand vous avez les moyens, vous prenez les deux. Voilà. Voilà, vous prenez tout le run. Sachant que je voulais faire un point d'ailleurs sur ce qui est disponible en VF. Pour l'instant, seule une grande partie du run de Jones est disponible chez Urban. Donc on a les 4 premières intégrales qui vont jusqu'à l'épisode 207, si ma mémoire est bonne. Je pense que Urban ira jusqu'au bout du run de Jones, parce qu'ils annoncent 6 tomes, si ma mémoire est bonne. Donc ça devrait nous amener au moins jusqu'au 225, donc la fin du run de Jones sur Wally West. Est-ce qu'on aura le run de Wade? Personnellement... Comme je vois, comme je l'ai déjà dit, il ne publie qu'en fait qu'une seule intégrale du run de Jones par an. J'y crois pas beaucoup. Voilà. Ou alors ce sera s'ils adoptent un nouveau format pour sortir beaucoup d'épisodes en même temps.
Pascal nous dit Jones, c'est du blockbuster, c'est le Joel Silver du comic.
Ah.
J'irais
plutôt le John McTiernan. McTiernan est très supérieur à Joel Silver.
Illiju nous propose un petit jeu, nous dit « Quel comic va être publié cette semaine après avoir été repoussé 6 fois et est désormais indiqué comme étant article en précommande, livraison prévue à partir du 31 décembre 2020 ?» Alors Pascal propose Doomsday Clock 13. C'est très très bon.
Les 3 Jokers ?
Oh ouais, bien joué, je pense, oui, effectivement, c'est peut-être ça, ouais.
Sauf que Jason Fabok avait déjà indiqué qu'il avait terminé. Terminé.
En même temps, je veux dire, là, je vais pas en vouloir à DC de ne pas sortir les 3 Jokers maintenant et de se contenter que d'un format numérique.
Lazarus 7. Oh, putain.
Voilà, vous avez fait déprimer Sam. Est-ce que vous êtes fier de vous?
Oui, merci. On va jamais y arriver. C'est vraiment une année de merde.
Oui. Nous sommes que fin mars, mais on peut déjà le dire, c'est une année de merde.
Déjà, ça fait plusieurs années qu'on dit c'est une année de merde, mais alors là, j'ai déjà.
Gray nous dit les 3 Jokers va bientôt.
Tout va être en 2021 déjà, parce que.
Gray nous dit les 3 Jokers va bientôt sortir, il est sollicité en juin. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il soit repoussé, et honnêtement, je conseille fortement à DC, même s'ils vont pas m'entendre, de le repousser. Ce serait très con, parce qu'on ne sait pas où on en sera en juin, mais ce serait très con de se contenter d'une sortie uniquement numérique pour cette série. Ouais. Cette série est attendue depuis longtemps, elle mérite une grosse sortie papier, et surtout, ça permettra de réattirer les gens dans les comic shops quand tout va réouvrir. Donc ça, c'est le genre de produit qu'il faut absolument repousser jusqu'à ce qu'on puisse faire des sorties papier. Ouais. Autant je suis contre les retards, mais de toute façon, la série n'étant pas commencée, c'est beaucoup moins gênant qu'elle soit décalée.
Elle n'est pas commencée, elle est hors continuité, donc...
Ah, Bastien nous dit 3 Jokers sortira avant Lazarus 7, là je me marrerai bien.
Oui, ben là ça sera pour nous faire souffrir. Hein. Ce qui est con parce qu'en fait la série continue d'être régulière maintenant aux États-Unis. Hein. Voilà, la Zero Horizon numéro 4 est sortie, le prochain épisode est annoncé, donc il n'y a plus de retard maintenant. Il n'y a pas de pause, les auteurs bossent.
Bastien nous dit DC se moque des comic shops. Ben, je sais pas, Bastien. Là, honnêtement, est-ce que la pression vient pas de Warner? Ça se trouve, les mecs avaient peut-être envie d'arrêter, mais leurs actionnaires leur disent non, vous continuez de sortir votre merde, là, vous dépêchez, vous faites du blé, faut que le blé rentre. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Est-ce que les éditoriaux de DC, est-ce que les têtes pensantes de DC, vraiment la branche comics, a vraiment le choix? Je sais pas. Je vais pas, c'est vrai que je suis le premier à leur cracher dessus. Là, c'est compliqué. Je sais pas qui est responsable de ça. Ils vont le vendre chez Walmart. Ouais, c'est possible. C'est possible.
Je vis toujours dans l'optique que Warner se contrefout de ce qui se passe chez DC, tout comme Disney se contrefout de ce qui se passe chez Marvel.
On reparlera de ça jeudi, hein, dans le Comics Weekly, bien évidemment, on fera un point sur les news, mais c'est vrai que on a vu passer des news comme quoi DC, et je trouve que là, je ne peux pas leur donner tort, commence à essayer de trouver un moyen de court-circuiter Diamond, et c'est pour moi une chose saine.
Oui.
Et on reviendra dessus, on fera un petit débat, puisque de toute façon, il faudra bien qu'on remplisse, hein, on pourra faire un peu d'émission, parce qu'on n'aura pas tout lu. C'est parce que c'est pas parce qu'il y a que DC et Marvel qui sort qu'on va lire toutes les séries. Non, moi, il y a des séries que je refuse de lire, et hors de question que j'y aille, quoi. Même en confinement, même avec moins de comics. M'en fous. Je préfère parler d'autre chose. Donc oui, on fera un petit débat là-dessus, sur les explications de pourquoi Diamond est peut-être, et le montre aujourd'hui, un poison, pour la distribution de comics. Mais, tout ça, ce sera jeudi prochain, un spécial à la fois.
Donc on continue avec Flash. Donc on a fini les deux runs emblématiques, à savoir Wade et Jones, et va commencer à partir de là, ben, les âges sombres, c'est comme ça que j'aime les appeler, qui sont-ils finis véritablement? Voilà, parce que après le run de Jones, DC en fait voulait enchaîner avec Bart Allen, le propulser dans la position du nouveau Flash, en fait, et le titre va être un désastre.
Malheureusement. Alors que, franchement, eh ben, c'était vraiment loin d'être mauvais. J'ai même beaucoup aimé ce run, moi.
Je vais être clair, je l'ai lu quand c'est sorti en floppies à l'époque, je trouvais que c'était de la merde. Mais vraiment. À tous les niveaux.
Ah, moi, j'aimais beaucoup l'évolution du personnage, je l'ai trouvé très intéressante. Certes, ils ont repris le même chemin qu'avec Wally au départ, avec un mec un peu torturé, un peu comme Wally avait été post-retour de l'identité secrète. Mais il y avait une telle évolution dans le personnage. Quand t'avais lu un peu d'Impulse, quand t'as voyé le gamin qu'il était, et quand tu voyais l'adulte qui devenait finalement, ah, il y avait franchement quelque chose, quoi. Et on était sur la construction même du super-héros. C'est-à-dire qu'on reprenait le même schéma qu'avec Wally, mais de façon un peu différente. On avait ce mec qui se sentait pas les épaules pour reprendre le costume du mentor, mais qui va devoir l'accepter parce qu'il a le sens des responsabilités. C'est parce que c'est la noblesse d'âme, quoi. Alors franchement, moi je garde un très bon souvenir de ce run.
Ouais, c'est moi plutôt la partie Guggenheim dont tu gardes un bon souvenir.
Peut-être.
Parce que premier arc, s'ils ont dégagé l'auteur aussi vite, il y a une bonne raison.
Peut-être, mais ouais, dans l'ensemble. Alors, je ne l'ai pas relu depuis la sortie, sincèrement. Je ne l'ai pas relu donc depuis qu'on les avait chroniqués à l'époque, mais moi, ça m'avait plu. Ça m'avait plu. J'en garde un bon souvenir, en tout cas. Peut-être que maintenant, je le relirai 10 ans plus tard. Je me dirais, bah non, en fait, c'est chiant. Mais pour le moment, dans ma tête, c'est un bon truc. Alors, tu vas pas me le gâcher, Sam, s'il te plaît.
mais si. Faut accepter la merde quand elle est là.
J'ai assez peu de bons souvenirs dans ma vie, je veux dire, ma naissance, et puis c'est tout. Et puis ça, donc, s'il te plaît.
Et puis donc, le run de Jones, c'est un bon souvenir.
Mais qu'exagère pas du tout, ça. Juste ma naissance, c'est ça. Ne m'enlève pas ça, je n'aurai plus que ma naissance. Et c'est déjà pas glorieux. Merde. Finalement.
Donc après Bart.
Bart va se sacrifier.
Voilà. Ou plutôt, il se fait défoncer la tronche par les rogues, et il crève, comme une merde.
Flash, Tommy nous demande si c'était Flash de Fastest Man Alive. Ouais, c'est ça. Run de Wade où Bart était Flash, exactement.
Oui, mais c'était pas Wade.
Wade reviendra juste après, en fait, avec le retour de Wally.
C'est ça. Wally revient lors d'un crossover entre la JSA et la JLA. Et Mark Wade revient à ce moment-là pour tenter de relancer la série. Ce qui ne marchera pas.
C'était un peu moins bien, même si j'avais adoré l'idée d'avoir un super-héros qui a des enfants.
Oui, moi aussi.
Putain, c'était tellement bien, quoi. C'est-à-dire que Flash devenait un peu les quatre fantastiques. Mmh. Avec les gamins qui, certes, étaient pénibles, faisaient des conneries, t'avais envie de les gifler, mais t'avais un papa aimant et t'avais surtout un Wally qui avait grandi, qui avait mûri, qui était devenu, qui avait dépassé Barry à tous les niveaux. C'est-à-dire que il était déjà pour moi supérieur à Barry avant, mais là, il avait vraiment atteint le stade qu'on n'a jamais vu Barry atteindre. Parce que Flash devenir un très grand super-héros, c'était déjà le cas de Barry. Wally avait réussi à relever le défi sans problème, il avait eu ses propres crises. mais c'était un et il s'était sacrifié aussi pour sauver le monde. Mais il est resté au niveau de Barry. Là, avec les enfants, il atteignait un stade que Barry n'avait jamais atteint.
Construire une vie de famille tout en étant un super-héros, oui. C'était avec un niveau de maturité rare. Donc évidemment, il fallait balancer tout ça par la fenêtre. D'où le retour de Barry Allen dans Final Crisis. Et la relance du titre Flash avec le retour de Geoff Johns. Ça fait beaucoup de retours d'auteurs pour Flash Rebirth. Qui était assez solide dans l'ensemble. C'est voilà, c'est le duo de Conan Terneybers quand même, Geoff Johns et Vance Kiver, qui font le taf pour moi. Qui font le taf. C'est pas du niveau de voilà.
C'est pas Green Lantern Rebirth, non.
C'est ça. C'est la même construction narrative avec les mêmes astuces. Mais je dirais quand même que dans l'ensemble ça fonctionne. Voilà. Il y a des pages où tu vois toute la Flash Family réunie à la fin. Moi, c'est des pages que j'ai aimées. Et puis le drame, ensuite, le lancement de la nouvelle série Flash, avec Geoff Johns et Francis Manapul derrière.
Alors visuellement, j'adore.
Visuellement, c'est très beau.
Visuellement, c'est vraiment magnifique. Là, ça fait partie pour moi des plus beaux Flash, quoi. Il y a un côté pastel dans la colorisation, il y a tout ça. Enfin, putain,
c'est Francis Manapul qui là aussi arrive à son niveau, en fait.
J'adore l'ambiance, quoi. Vraiment, c'est tellement classe, putain.
Par contre, histoire, niveau histoire, voilà. Donc, c'est une période difficile. Et puis Flashpoint et le New 52 arrive derrière. Voilà. Et là, je vous laisse discuter du New 52 avec un Barry Allen seul. Voilà. Pour les gens qui aiment toute la mythologie autour de Flash, qui aiment justement le cast élargi, qui aimait Jay, qui aimait Wally, qui aimait sa famille, qui aimait toute l'histoire qu'il y avait autour des speedsters dans l'univers DC. Et bien DC nous dit allez tous vous faire enculer. Voilà, Barry est le seul Flash, c'est le seul speedster dans l'univers DC, et allez vous faire foutre.
Pire encore. Ah bah si, on nous dit Manapul bof, mais ensuite, trois petits points.
Et le truc, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que visuellement, en fait, la série Flash avec Manapul est magnifique, visuellement. C'est, enfin, il y a des pages et des idées de mise en scène, de mise en case qui sont magnifiques, en fait, qui sont très bien pensées, qui sont très intelligentes. Mais qu'est-ce que c'est chiant et qu'est-ce que c'est brouillon. Très sincèrement, on arrive.
Jonathan nous dit j'adore cette approche. Du coup, je sais pas de quelle approche tu parles. Est-ce que tu parles de l'approche de Manapul dans les dessins ou est-ce que tu parles de l'approche d'avoir un Flash qui recommence tout à zéro et qui n'a pas de mythologie. J'ai pas bien compris. C'est pour ça que je me permets de demander cette précision. Il y a peut-être des gens qui aiment aussi justement et c'est très
aiment,
et tant mieux.
Mais moi, en tant que lecteur de Flash, qui lisait Flash depuis un moment, j'arrivais là-dessus, je ne comprenais rien, en fait. Qu'est-ce qui était dans la continuité? C'est toujours une question qui se pose, Qu'est-ce qui concrètement est dans la continuité? Parce qu'on nous dit au début de la série, oui, le meurtre de sa mère, est bien arrivé. Sauf que moi, j'avais l'impression que ça avait déjà été résolu avant. Oui, on savait que c'était Zoom. Merci. On comprend, c'est réglé. Et en fait, là, on te dit, oui, c'est pas réglé, en fait. Mais c'est réglé, mais en fait, c'est pas réglé. Et en fait, pendant des années, alors que ce soit Manapul, Buccellato et ensuite Vendetti et Van Johnson, vont continuer autour, de tourner autour, de danser autour de ce point sans qu'on comprenne rien. Voilà. Un coup c'était le Reverse Flash, un coup c'était le père de Barry qui était le coupable, qui avait fait un deal avec
Tu vas trop vite. Tu l'expliques pas du tout l'histoire et du coup les gens sont perdus. Ceux qui ne connaîtraient pas du tout Flash n'ont plus de point de repère. Faut qu'on parle.
Ça renvoie en fait à la préparation du Mifitou et au fait que il y a pas de préparation en fait. Voilà. Jetez les auteurs, démerdez-vous.
Faut qu'on parle de Flashpoint. Il y a peut-être des gens, parce que ça nous paraît récent, mais c'est pas si récent que ça. Il y a presque 10 ans, Sam. Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Flashpoint, qui ne savent pas ce que c'est, à part que bon, c'était l'équivalent d'une grosse crisis, mais Flashpoint, c'est Barry qui s'est dit, j'en ai marre de sauver tout le monde autour de moi et de pas me sauver moi-même, donc je vais revenir dans le temps et je vais sauver ma maman. Pour pas qu'elle meure.
Ok.
Et donc par la même, il a changé tout le time stream. Et il y avait Tommy qui nous disait Flashpoint, je trouve sympatoche, mais trop calqué sur Age of Apocalypse. Mais c'est ça, c'est Age of Apocalypse dans l'univers DC. Toutes les séries sont changées, les titres sont différents. On a par exemple une guerre entre les Atlantes et les Atlantéens et les Amazones. Donc Aquaman et Wonder Woman qui s'affrontent, qui déchirent complètement le monde est moche, le monde est sale.
Superman n'existe pas, Batman bute des gens.
Bah Batman est le père de Bruce Wayne parce que c'est Bruce qui s'est fait buter au moment du crime et c'est le Batman que vous verrez dans le run de Tom King notamment. Mmh. Ah voilà, enfin le Batman en tout cas un des Batman
Oui. Je te renvoie à ce que dit Bastien. J'ai commencé DC avec Flashpoint et New 52, donc j'ai quand même une tendresse pour ces débuts.
Mais c'est normal. On a toujours une tendresse pour les trucs qu'on a lus au début. C'est logique quand on a commencé à accrocher un personnage qu'on a commencé à aimer, même si par la suite on se rend compte que c'est pas très bon, on aura toujours une tendresse parce que c'est nos premiers souvenirs de putain j'accroche, j'ai envie d'en voir plus. Et c'est logique qu'on ait cette tendresse.
C'est quand j'ai découvert ce qui existait avant que j'ai remis en perspective. Mais de toute façon, moi je condamne personne, parce que c'est déjà un condamné, c'est un gros mot. Je comprends tout à fait, comme tu dis, les gens qui ont une tendresse pour le moment où ils ont commencé la série. Même s'ils savent, ensuite, en remettant en perspective, que c'était pas très bon. Parce que, comme je dis,
ma tendresse sur Extinction Agenda, Sam.
Voilà. Moi, j'ai une tendresse pour, j'ai commencé Spider-Man plein milieu de la saga du clone, au moment où ça a commencé à devenir mauvais. Et j'ai commencé X-Men, quelques mois avant Zéro Tolérance, qui, je l'admets bien gentiment, n'est pas du tout le meilleur crossover d'X-Men. Et pourtant, j'ai adoré.
Bon, c'est quand même mieux que les 12.
À peu près tout est mieux que les 12. Voilà, faut quand même...
Les New 52 ou les 12, Sam?
Les New 52, non, les New 52 sont beaucoup mieux.
Avec tous ces problèmes de continuité,
on aime cracher sur les New 52 aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y avait... Je continue à penser qu'il y avait beaucoup de bonnes choses dedans. Voilà. Bon, à part Superman qui était un désastre, la plupart des franchises se tenaient assez bien.
Je vois Greg qui dit arrêtez avec les 12.
Je pense qu'on peut trouver pire que les 12.
Ah, attends.
Il faut aller chercher Battle of the Atom.
Eh bien, Greg nous propose les 12 ou Heroes Reborn.
Heroes Reborn était mieux, je trouve.
Je préfère Heroes Reborn.
Visuellement, ça. Voilà, parce que pour moi, 6 épisodes déjà de Jimmy. Ça vaut mieux que tous les 12. Hein. Rien que ça, ça va.
Bah, c'est un de dire, dans les New 52, il y a le Action Comics de Momo que j'ai aimé.
Voilà.
Pascal nous dit, moi j'ai repris les comics avec Urban et New 52 en 2012, après 8 ans d'absence, et j'ai découvert que je n'étais pas tout seul à lire les comics en France, surtout dans les petites villes comme Auxerre. Merci Comic City. Par contre, Steve et Sam, faudrait mieux choisir vos auditeurs.
Ah oui. Mais c'est vrai que ça a été un point d'entrée absolument énorme, hein, le New 52 pour énormément de lecteurs. Et ça, il faut pas le dénigrer, je trouve. Parce que c'est, comme j'ai dit, j'ai aimé beaucoup de choses dans New 52. C'est juste que, historiquement, DC n'arrive jamais à maintenir son allure plus de quelques années.
En fait.
On l'a vu après Crisis. Parce que, comme je dis, les années 87, 88, 89, sont des années énormes pour DC. Que ce soit en termes qualitatifs ou de vente, c'est gigantesque. Les 90-91 sont des années catastrophiques. Parce qu'ils se font écraser par Marvel, parce qu'il y a toute la nouvelle génération d'auteurs qui arrivent. Et c'est pour ça qu'en fait, on a toutes ces grandes sagas dans les années 90, parce qu'ils avaient besoin d'avoir ces grandes sagas. Ils avaient besoin de changer les personnages, parce que Hal Jordan, Barry Allen, tout le monde s'en foutait de ces persos. Tout le monde s'en foutait. Il y avait besoin de remettre du jus et de secouer tout ça. Et donc, t'as la fin des années 90 où ils ont perdu tout l'élan et ils sont obligés de se relancer dans le début des années 2000. T'as la fin des années 2000 qui sont catastrophiques et ils se relancent justement avec le New 52. Et au bout de 4-5 ans, ils perdent encore du jus, ils ont besoin de Rebirth pour se relancer. Et là, on est à nouveau à la fin d'une de ces phases actuellement, où depuis un an ou deux, parce qu'il y a eu le retard de Doomsday Clock, ils ont perdu, en fait, ils se sont désynchronisés, je trouve. Ils ont perdu leur rythme. Et t'as un peu l'impression qu'il n'y a plus de pilote à bord.
Et puis 5G qui arrive, enfin voilà, c'est perpétuel, quoi. C'est-à-dire que maintenant, autant avant, on était sur des grosses crises tous les 4-5 ans, mais l'espace se réduit. On est sur des crises qui maintenant vont durer 2 ans avant de rebooter l'univers, 3 ans peut-être. Mm. C'est trop court. Alors, je prends les réactions sur le chat parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Pardon. Alors, Tommy nous disait, lui, les comics en général, il avait repris à l'époque où House of M démarrait, en 2005-2006. Enijou nous disait, c'est mon tuteur de stage, un prof d'histoire géo de collège qui m'a rebranché dessus en 2011. C'est lui aussi qui m'a branché sur votre émission. Et vous savez quoi, depuis, c'est devenu mon inspecteur. Merde, va peut-être falloir qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit, alors. Il y a des inspecteurs.
Ben, monsieur, on vous salue et merci.
Et concernant New 52, pas mal de petites choses. Alors, je vais juste prendre ce que Tommy nous disait, la baston entre les Amazones et les Atlantes n'était traitée pratiquement que dans Wonder Woman and the Furies et Emperor Aquaman. Puis une ou deux mini-séries. Alors oui, elle était traitée principalement dans ces mini-séries-là, mais c'était le climat général de guerre permanente oui. qu'il y avait dans Flashpoint.
C'est ce qui déclenche, en fait, la chute finale de l'univers Flashpoint, en fait.
Alors, les New 52, c'est surtout le de Wonder Woman d'Azzarello et Chiang, nous dit Grey.
Bah, surtout le Batman de Snyder et Capullo, qui restait la grosse machine durant tout le run.
Oui, qui était la machine avant.
Aquaman de Jeff Jones.
Alors, Justice League de Jeff Jones, j'y viendrai après.
Le début était mauvais, ça on l'a dit à l'époque, mais.
Oui, mais c'est ce qui plombe tous les New 52 pour moi. Je veux dire, dès le départ, Jones plombe les New 52 avec cette idée saugrenue de dire les héros ne se sont tous déclarés qu'il y a 5 ans.
Ça, c'était l'idée du staff éditorial.
Oh bah celui qui l'a écrit, pour moi, c'est son idée. Il se démerde. De toute façon, Flashpoint, c'était son idée de merde. Hein, donc, excuse-moi.
Ah non, c'était un idiot. Jones ne voulait absolument pas en faire un event. C'était un arc de Flash. Et Dean Didio lui a dit, tu m'en fais un event pour rebooter tout l'univers. Et je voulais rebondir sur ce que disait Bastien. La JL de Jones pour un nouveau lecteur, c'est pas mal. C'est exactement ça. Le premier arc de Justice League... qu'on a tous descendu, hein, moi y compris, voilà, je lève la main, je l'ai descendu, c'est un truc que tu peux conseiller à tout nouveau lecteur oui. qui a jamais lu un épisode de Justice League.
Sauf qu'il faut quand même le prévenir que Cyborg n'est pas un personnage, n'est pas un vrai personnage, c'est une merde, c'est un second couteau qui devrait disparaître, voilà.
Il devrait rejoindre les Titans.
Fallait que ça sorte.
Non, il faut qu'il reparte dans les Titans, c'est là qu'est sa place, c'est là qu'est sa famille.
Ah, oh, voilà. je gardais ça en moi depuis tellement d'années. Ah.
Heureusement, il a donc qu'un tout petit rôle, mais franchement, vous n'avez jamais lu un épisode de Justice League, allez lire ces épisodes-là. Vous ne serez pas perdu.
Cyborg dans New Teen Titans, c'est bon. Mais bien sûr, c'est que Cyborg n'a pas sa place dans la Justice League, clairement.
Bah, renvoie surtout au commentaire de Marv Wolfman quand lui il écrivait les Titans. Lui, son objectif était je n'écris pas une équipe, j'écris une famille en fait. Et Cyborg, c'était le grand frère de la série. Tu le sors de là, il peut pas être le grand frère dans Justice League, parce que c'est le petit jeune, donc ça marche pas.
Greg, il dit, tu dis ça parce que t'aimes pas les persos noirs. Ouais, le problème, c'est qu'en plus, je vais critiquer Wally West des New 52 derrière. On va vraiment croire que je suis raciste, quoi. Putain. tout le monde le sait. Bah oui, voilà, trop tard, c'est sorti au grand public. Merde. Nous sachons. Greg nous dit, la JL de Jones, je suis persuadé qu'ils vont en vendre encore des cartons pendant des années. Oui. C'est un point d'entrée parfait. Continue. Mais je suis entièrement d'accord. Le gros défaut de ce premier arc, c'est d'avoir daté. D'avoir dit, c'était il y a 5 ans. Et après, nous faire des discours comme en nous disant « Ouais, mais ce que vous avez lu avant n'a pas été annulé, ça a eu lieu. » Mais comment tu expliques que Batman a pu avoir 4 Robins différents en 5 ans ? Enfin, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Il a recueilli Dick à 12 ans, mais alors 5 ans plus tard, Dick à 25 ans, il est devenu Nightwing. Attends, mais... Ah, quoi ? C'est pas possible. Tu vois ? Et en fait, c'est-à-dire que dès le premier arc, ça te pose toutes les choses incongrues de cet univers. Et tu ne peux pas y croire une seconde. Et c'est, pour moi, c'était une erreur. Ils auraient pas daté. Ils auraient pas daté. Et ça faisait un très bon truc. Mais d'entrée de jeu, ils ont daté. Et je ne peux pas, décemment, choisir d'occulter cette information de mon esprit. Tu me l'as écrit, je le prends en considération. Point. Et c'est la preuve d'entrée de jeu qu'ils savaient pas où ils allaient.
Ah, mais ça, c'était, on le savait tous, hein. Ouais.
Il y avait, alors dans les bonnes séries hein, du New 52, c'est vrai que Jonathan l'avait annoncé, Elijah aussi en a parlé, Animal Man et Swamp Thing, effectivement, qui sont de très très bonnes séries qu'on n'aurait peut-être pas eu avant les New 52, parce qu'ils auraient peut-être pas tenté, comme ils étaient partis sur ce concept de 52 séries, qui était beaucoup hein, pour le marché, oui. Mais ils avaient décidé de faire des coins avec un coin plus dark de l'univers, un coin plus super-héroïque, etc. Peut-être qu'ils auraient pas tenté.
Il y a plein de séries comme ça qui étaient très sympas.
Ils n'auraient pas forcément tenté. Donc, il y avait Bastien qui nous disait tout à l'heure, c'est vrai que New 52, ça a été aussi une grosse pub d'Urban. Clairement, ils ont eu un gros bol parce que ça a pu les lancer et les mettre.
Ils les boostaient énormément. Point d'entrée énorme, allez-y.
est-ce que Urban serait ce qu'il est aujourd'hui sans les New 52? Difficile à dire. Pascal nous disait Batwoman, de J.H. Williams 3, compte-t-il pour les New 52 ou pas, oui, vu qu'elle serait sortie même sans les New 52? Alors oui, effectivement, il y avait eu un zéro qui avait été publié juste avant Flashpoint, et sachant que le truc arrivait, ils ont décidé d'arrêter et ils ont republié derrière. Et c'est pas plus mal. C'était pas plus mal. C'est vrai qu'il l'avait commencé dans Detective Comics et sa série régulière. Donc ouais, c'est à cheval, mais on va le compter dans les New 52. Elle a eu plus de numéros dans les New 52 que avant les New 52. Et pendant les New 52, t'avais Jones sur Green Lantern et Momo qui faisait son Batman Inc. tranquillou, comme si de rien n'était. C'est ça?
C'est ça, ouais. Qui terminait son run, ouais.
Alors, effectivement, on avait commencé à en parler, le flash de, des New 52.
C'était le bordel.
Jeff Jones quitte Flash. Très bien, qui passe la main à quelqu'un d'autre, et puis lui, il va écrire autre chose en attendant. Et on a une équipe assez nouvelle. On retrouve Manapool à la partie dessin. Il va aussi s'occuper de la partie scénario accompagné de son pote Buccellato. Et tous les deux vont former un super tandem. Visuellement, moi je trouve ça toujours aussi somptueux. Ouais. Comme tu l'as dit, on se retrouve avec un Barry seul. Un Barry qui ne va pas s'amouracher d'Iris West, va partir sur cette scientifique Patty, machin. Ouais, mais ça fonctionne pas. Et après, les fans gueulent parce que Wally n'est plus là, puisque dans cette nouvelle continuité New 52, Wally n'existe pas. Et Wally, on va nous le faire, les fans l'ont réclamé. Mais Dan DiDio n'a jamais aimé Wally. Il a jamais aimé les sidekicks, on le sait. Donc il a dit, je vais vous ramener Wally, vous le voulez? Je vais vous le ramener. Je vais vous ramener Wally. C'est un jeune afro-américain. Ah, vous vouliez le petit rouquin, non? Est-ce que ça, c'est pas un crachat à la gueule des fans, quand même?
Légèrement.
Comment tu veux avoir confiance dans le mec, quoi? Le mec te dit, regardez, vous le voulez, votre Wally West? Et voilà, il est là. Allez hop.
Je me demande même s'il est scénariste en fait en vol de ce personnage ensuite, parce que c'est un peu le personnage en fait qui fait toutes les conneries là depuis qu'il a été créé. C'est je fais toutes les erreurs possibles et imaginables. Alors tu te dis c'est un jeune perso donc c'est normal, mais toutes les erreurs d'appréciation possibles il les fait, donc moi tu te poses des questions, hein.
Ouais, et c'est très compliqué d'arriver à aimer ce personnage. Il prendra son utilité parce que finalement, on va finir par lui donner des pouvoirs de Kid Flash. Histoire d'enfoncer un petit peu plus le clou, quoi.
Voilà, mais moi là, sur Flash Rebirth, parce que c'est là que Jameson le reprend, j'ai l'impression que les trois quarts du temps, il gueule en fait sur Barry Allen. T'es qu'un sale con, tu me caches des choses. Voilà. Comment tu veux le rendre le personnage appréciable? Déjà, Barry, on a déjà du mal à l'apprécier. Et si en plus tout le personnage, le jeune qui est dedans, lui gueule dessus en permanence, tu te dis, ouais, c'est pas censé être le run de série? Pourquoi? Comment?
C'est vrai que sur la fin, on avait eu le run de Venditti aussi, j'avais oublié.
Oui, comme tout le monde.
J'avais oublié que Venditti avait écrit Flash.
Je crois qu'il l'a oublié aussi.
Donc du coup, on arrive à Rebirth et on a Joshua Williamson. Joshua Williamson, que l'on aime ou pas, c'est un auteur qui est maintenant un auteur majeur de Flash. On est quasiment au 100e épisode écrit par Joshua Williamson d'affilée. C'est un tour de force aujourd'hui. C'est un véritable tour de force. Le mec est là depuis le début de Rebirth.
Ça fait 4 ans.
Et ce qu'il nous a fait, c'est que bon, il a continué avec Barry, il avait cette situation-là, donc il a continué avec Barry. On nous a ramené Wally, alors Jones avait commencé plus ou moins avec Rebirth à nous ramener Wally. Il a gentiment fait les crossovers avec Batman de Tom King, avec on revient dans l'univers de Flashpoint, etc. Il a fait avancer tout un tas de trucs. Et surtout, il a ajouté sa pierre à la mythologie. J'espère juste que cette pierre cette pierre qu'il a ajoutée à la mythologie ne sera pas oubliée par les scénaristes suivants. Il a augmenter encore plus la Speed Force. C'est vrai que depuis que Mark Waid l'avait annoncé, hein, Terminal Velocity, tout ça, il y a la Speed Force. Ok. Et en fait, Venditti s'est dit, bah, d'accord, la Speed Force. Eh ben, on va créer d'autres forces. Pourquoi il y aurait que la force de la vitesse? Et il a créé la Sage Force, la Earth Force et compagnie. Il en a créé d'autres. Et c'est une superbe pierre ajoutée à la mythologie de Flash. Il aura vraiment laissé sa marque sur le personnage.
Je reste réservé personnellement. Je trouve ça solide. Mais ça n'atteint jamais en fait les pics pour moi de Jones et Watton.
Gray nous dit Williamson a fait avec la Speed Force ce que Jones avait fait avec l'univers de Green Lantern. Je suis entièrement d'accord avec ça.
Sans le côté épique alors.
C'est vachement
la maîtrise.
Ah si, c'est vachement épique. Il y a quand même vachement d'épicness dans le run. Il te met Barry dans des situations, il gère ses cliffhangers, c'est un très bon auteur et il construit.
Ça beaucoup moins maîtrisé personnellement.
Il construit aussi sur des mois et des mois. Il arrive à gérer un cast et il construit sur des mois et des mois. Son Commander Cold est génial. Le personnage de Commander Cold est génial. C'est un très bon personnage. Alors pour ceux qui voient pas, c'est un Captain Cold qui vient du futur et qui se retrouve coincé dans le temps présent et qui va devoir faire ami-ami avec Barry alors que les mecs se piffrent pas quoi. Mais ils vont finalement œuvrer pour le bien commun tous les deux et ça va en faire un tandem très bon. C'est un super auteur de single, ce qui est aujourd'hui inhabituel, nous dit Bastien. Ouais, complètement. C'est un auteur de single. Il a un plan en tête, mais il sait très bien écrire les singles. Et ça, moi, la gestion qu'il a des cliffhangers, c'est ce que je disais encore dans le dernier Comics Weekly. Même quand t'as un épisode qui est moyennasse, où tu te commences à t'emmerder un peu, t'as toujours ce cliffhanger où tu te dis « Oh le con ! Putain, je veux la suite !» Alors que pourtant, tu t'es un peu emmerdé et qu'il t'a paru un peu long l'épisode. Mais il arrive toujours à te gérer ce cliffhanger pour te donner envie. Un mec qui sait écrire les singles, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Sinon, à Chip Zdarsky. Qui nous montre sur son Daredevil qu'il est capable de gérer les singles d'une main de maître.
Ah, merci, Liju. J'aime ce commentaire.
J'espère que c'est mieux de terminer ces histoires qu'avec Nailbiter. Ouais.
Bah, le problème, c'est que non, en fait. Ses conclusions sont relativement ratées la plupart du temps. C'est juste, bon, bah, j'ai fini. Voilà. Et oui, il y a une certaine gestion du cliffhanger depuis ce toujours. Ça a toujours été son style. Mais je trouve ça beaucoup plus plat, en fait, que ce que tu présentes. Mais bon, chacun son ressenti de la série.
Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est pas Wally. Ah, putain, j'aurais tellement aimé qu'il nous écrive un run avec Wally.
Ouais, mais je me demande si même lui, ça lui préfère, il préférerait pas écrire Wally, en fait.
Et tu sens que le mec a fait le boulot, hein. Il a préparé, il a été sympa, il a préparé Heroes in Crisis dans sa série. Mm-hmm. Le mec a fait le taf, quoi. C'est-à-dire que jusqu'au bout, le mec aura fait le taf. Non seulement il a tenu un run de 100 épisodes, puisqu'il arrivera à 100 sans problème, mais il a fait le taf en préparant les events, en préparant les trucs pour les autres séries. C'est même lui qui a écrit le crossover avec Batman, hein, parce que bon, Tom King, il a pas écrit grand-chose là-dedans.
Non, il a juste écrit le truc de base, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'était pas terrible.
Tout le monde préfère écrire Wally, nous dit Bastien.
Tout à fait.
Et Gray qui nous dit, vous n'avez pas dit l'essentiel sur Flash, Brian Dieu Bolland possède tous les Flash en single depuis Showcase numéro 4.
Waouh, la vache.
Waouh, c'est...
Ça, c'est un fact. Hein.
C'est incroyable. C'est incroyable. On a plus ou moins fait le tour. C'est vrai qu'on n'est pas rentré en détail sur tous les arcs. On peut pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Flash, ça fait partie de... C'est un peu comme Daredevil pour moi. C'est... ce genre de personnage qui sera toujours là, enfin, j'espère en tout cas,
oui.
Mais qui est là depuis très longtemps, qui, certes, alors, Flash est beaucoup plus connecté que Daredevil, c'est certain, à l'univers DC, mais tu peux lire quasiment que Flash dans l'univers DC et pas trop de soucis du reste. Bien sûr qu'il y a des crossovers, bien sûr que le personnage est important, et on l'a dit, il est central à beaucoup d'events, mais c'est vraiment le personnage que tu peux lire en solo. T'es pas obligé d'aller lire 80 titres comme par exemple
oui,
du Batman
propre,
ou du Superman.
Dans sa propre poche, oui.
Qui a eu le bon ton de vraiment mettre en avant ce côté legacy
beaucoup plus que sur d'autres titres. Alors, on a eu d'autres titres avec la Legacy, je veux dire Green Lantern, avec le passage de Torch, avec John Stewart, avec Guy Gardner, et puis Kyle Rayner surtout, hein, qui restera longtemps le personnage central du titre. On a eu Green Arrow aussi, avec Speedy qui est devenu Green Arrow. Ouais. Mais tout ça, c'est Flash avant, quoi. Wally est devenu... Dick, qui était là avant, donc Dick Grayson, hein, Robin puis Nightwing, n'est jamais vraiment devenu Batman à plein temps. Un peu, ouais, juste pour remplacer l'histoire d'un arc ou deux, d'un an, quand Bruce Wayne était mort, mais il n'est jamais resté Batman à plein temps. Wally est devenu le Flash à plein temps, et il est devenu Flash. C'est-à-dire que le successeur est vraiment devenu, pour toute une génération, le Flash.
Oh là oui. Oui,
ce qui est un tour de force, je crois que c'est un truc relativement inédit dans tout le reste de la production comics.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait s'en débarrasser absolument.
Et ouais, ça fait partie de ces personnages sur lesquels, y a deux personnages que je devais continuer de lire à la fois chez Marvel et à la fois chez DC, bah chez Marvel j'irai sur Daredevil, chez DC j'irai sur Flash. Ça fait partie pour moi de ces deux séries que, et même quand je les lâche un petit peu, j'y reviens toujours. Facile à appréhender, facile à reprendre. Voilà, Grey nous dit que c'est pas en Batman qui m'intéresse, c'est en Grayson. C'est son évolution naturelle, le fait revenir en Nightwing, ça m'emmerde. Complètement.
C'est assez logique, ouais.
Putain, son tandem avec Damian était tellement cool. Putain. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? C'était bien. Il y a un truc dont on n'a pas vraiment. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais Flash, c'est aussi quand même des dessinateurs incroyables.
Oui, pas les meilleurs, mais toujours très solides en général.
Et même quand tu remontes au départ, je veux dire, on a eu du Gil Kane qui est passé dessus, on a eu Carmine Infantino qui a donné ses lettres de noblesse à Flash, quoi. On l'a cité tout à l'heure, Greg LaRocque. On a eu du Howard Porter, oui, effectivement. On a eu du Scott Collins.
Très très bon, Scott Collins. Scott Collins, c'est très bon.
On a eu Manapool qui a un style qui, moi, me parle beaucoup dans sa mise en scène et dans son côté vitesse qu'il arrivait à donner dans chaque page. C'est, ouais, Flash.
Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup Carlo Pagulayan. Qui vient régulièrement faire des épisodes que je trouve très bons personnellement.
Très bon Scott Collins, on sent que Sam est au bout du rouleau, nous dit Gray.
mais non, c'est toi qui es au bout du rouleau. Écoute, justement, je me suis replongé dans des épisodes pour préparer l'émission. T'as des doubles splash pages ultra détaillés qui sont impressionnants. Hein. C'est, voilà. On parlait de l'épisode 192, mais il y a des épisodes vraiment qui sont. Bon, il me met sur le cul par le niveau de détail qu'il est arrivé à imprimer.
Deuce, c'est du solide. Je suis entièrement d'accord, Gray. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Christian Deuce. C'est pas le meilleur dessinateur. C'est juste un très bon dessinateur de super-héros mainstream, comme tu peux te l'imaginer. C'est-à-dire que quand tu fermes les yeux et que t'imagines du super-héros, c'est ça. Christian Deuce, c'est ça. C'est juste du très bon super-héros. Comme un très bon Mark Bagley, tu vois. Mark Bagley a ce trait très super-héroïque. Ce sera pas le meilleur dessinateur de sa génération. Mark Bagley a pour lui qu'il est capable de tenir des délais extrêmement courts, et c'est une véritable machine pour ça. Christian Deuce, c'est pareil. Pour moi, ça fait partie de ces auteurs qui, quand j'imagine du super-héros, voilà ce type de trait-là que j'imagine.
Pour moi, il n'y est pas encore. Je vois le potentiel, mais il est trop régulé pour l'instant. Il a besoin de progresser avant de vraiment devenir un auteur solide pour moi.
Bastien nous disait Howard Porter, quand tu as lu Collins, tu trouves que c'est un génie. Gray nous dit, le plus gros choc visuel, c'est quand Collins fait un épisode de Shazam après Eaglesham. Ça pique très très fort.
Bah, c'est normal, ils ont des styles très 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 différents. Hein. Donc,
Sinon, Perez, nous dit Pascal, son premier travail d'essai, c'était sur Flash, un backup de Firestorm. Ça compte, Perez? Perez, il compte partout. Perez, il compte partout. N'empêche que peu d'auteurs, je crois, enfin, peu de personnages ont eu de si grands auteurs dessus, et peu de personnages ont eu si peu d'auteurs, finalement, dessus.
Ouais.
Parce que, malgré la branlée d'auteurs qui sont passés sur plein de titres, Flash a quand même eu des runs extrêmement longs. Et c'est, on n'a même pas parlé de Mark Millar.
Parce qu'on est obligé d'en parler.
Ben oui.
Oh.
Mark Millar accompagné de Grant Morrison, c'est l'arrivée du Black Flash. C'est la création du Black Flash. Et
c'est
on l'a pas précisé.
Central City aussi, il me semble.
C'est, Tommy nous dit, ah oui, tiens, j'allais en parler. Gray nous dit Millar Momo, effectivement. Mark Millar, c'est Momo. Mais, c'est ça, c'est,
Il faudrait que je le lise à moi. Parce que, en fait, ils ont écrit le titre pendant un an, pendant que Wade faisait une pause. D'ailleurs, dont il avait vraiment besoin. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un pseudo One More Day à un moment sur la fin de son premier run. Aux alentours du 127-128. Où, en fait, grosso modo, pour arrêter les rogues et sauver la ville, Flash et Lydda font un pacte avec Néron. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est One More Day. Nous te donnons notre amour pour sauver la ville. Et ça se termine par Néron infecté par cet amour plus grand que la vie. Et qui demande, reprenez-le. Je ressens de l'empathie. C'est voilà. Donc, tu sens que Wade était fatigué quand il conclut un de ses arcs majeurs par je gagne grâce au pouvoir de l'amour. Voilà.
Gray nous dit, j'insiste quand même, mais c'est fort, vous n'avez jamais mentionné Van Jensen. Le gars réussi à faire le run le plus insipide de l'histoire du perso, ça mérite d'être mentionné, non?
Non? Ah, non.
Vous savez quoi ne pas aller lire? Non, mais, enfin, pour ce qui est de Millar Momo, Black Flash, alors, c'est peut-être pas un run d'anthologie, c'est vrai que c'est pas celui qu'on va garder en mémoire, mais il aura inventé le Black Racer. Tous les deux, ils auront inventé le Black Racer qui sera réutilisé et qui deviendra cette espèce de symbole que quand tu vois le Black Racer, c'est que la fin du Speedster est proche. C'est un concept qui n'est peut-être pas le concept le plus original du monde, mais sera utilisé plusieurs fois. Et aujourd'hui encore, quand tu vois le Black Racer, tu vois le Black Flash comme ça qui arrive dans un comic, tu fais « Oh merde !» Tu sens qu'il va y avoir quelque chose d'important. Tu sens que tu vas lire un arc où il va y avoir des conséquences. Quoi.
Oui, les auteurs suivants s'en sont bien emparés.
Voilà, mais c'est quand même eux la création, faut leur rendre.
Oui. Est-ce que c'est pas plutôt Momo qui l'a créé et Mark Millar qui l'a mis en scène?
Oui, mais c'est un tandem. Hein. Je veux dire, les mecs, ils le disent que c'est tous les deux qu'ils ont fait ça. Bon, bah voilà, peu importe. L'important, c'est qu'on s'en souvienne, quoi. Mais c'est quand même un personnage qui a eu... Alors, c'est vrai que sur la première série du nom, j'ai moins la notion des auteurs. Je sais plus s'il y a eu tant d'auteurs que ça, mais... Notamment à partir de 86, on a quand même eu des runs relativement longs, avec très peu d'auteurs, et c'était pas la valse des scénaristes, constamment.
Dire bah, écoute, Bastien résume bien ma pensée, Momo a fait la partie intéressante, les trucs nuls, c'est Millar. Oui. Voilà. Je n'ai pas lu le run, mais je suis sûr que c'est ça.
Si tu prends ne serait-ce que même la série Uncanny X-Men, on va juste prendre la série Uncanny X-Men, on va garder toutes les autres séries X-Men mises à part. Ou même un Spider-Man, quoique Spider-Man a eu des runs longs aussi, mais quand tu prends le nombre d'auteurs qui sont passés sur la même période de Flash, c'est-à-dire depuis post-Crisis jusqu'à maintenant, quand tu vois le nombre d'auteurs qui sont passés sur Uncanny pour faire un arc, rester un an, deux ans, quand tu vois le nombre d'auteurs qui sont passés sur Flash à côté, le nombre est vraiment ridicule, quoi. Alors oui, ça tient pas sur les doigts d'une main, mais...
Tu dois avoir quoi, 7-8 scénaristes qui sont passés sur Flash en... 30 ans. Sur Uncanny X-Men, tu dois en avoir une bonne douzaine, je pense.
C'est incroyable, hein. Donc,
Greg qui dit merde, tu reparti sur les X-Men. Mais la vie, c'est les X-Men.
Non, parce qu'il disait, il serait temps de finir cette émission, j'ai du Flash à aller lire. Ah, si on vous a donné envie, au moins, c'est le principal.
Tant mieux, parfait.
Mais il y a plein de
choses. Je crois qu'on a aussi redonné envie d'aller lire du New 52, allez-y. Il y a de très bons trucs.
Oui, et puis, j'espère qu'on vous donnera encore envie avec les prochaines émissions. Là, on a plus ou moins fait le tour. Il n'y a pas besoin de rentrer plus dans les détails que ça, en fait.
À part qu'il faut aller lire les runs de Mark Waid et James Jones, parce que c'est grand, c'est beau. Ça vous fera aimer le plus grand Flash qui ait jamais existé, à savoir Wally. Voilà.
Ouais, lisez depuis Mike Baron, en fait. Lisez depuis Post-Crisis, parce que c'est du très bon soap, en fait. C'est du soap comme on les aime, avec un cast de personnages qui restent, qui a des histoires, qui ont leur vie, qui évoluent, qui grandissent avec le personnage, qui aident le personnage à grandir aussi, à grand coup de taloche dans la gueule parfois, mais c'est nécessaire. et on a vraiment une construction très soap, et c'est ce qui convient le mieux. Et d'ailleurs, c'est ce que fait également très très bien Joshua Williamson, cette construction soap. Et c'est pour ça que ça me plaît. Parce qu'il sait gérer son cast. Des crêpes farcies qui lui attendent. Oh là là. Ça donne faim tout ça. On va donc se quitter là pour Flash. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu bordélique. On est un peu parti dans tous les sens, mais.
Oui. Parce qu'on a pris les runs dans le sens inverse, donc. Mais bon.
C'est Flash. Et c'est les Crisis. C'est les. Je vous remets l'univers à zéro. Ah, vous faites le tri. Hein. On a fait le tri, nous, pour la lecture. Et ben, vous faites le tri pour l'écoute. C'est bon. J'espère que ça vous aura plu. On reviendra pour un prochain spécial. Alors, peut-être mercredi. Peut-être vendredi. Sachez que demain, à 19h, on se retrouve quand même pour une émission qui va envoyer de la sueur, de la chic et du molar. Oui, c'est un podcast spécial. On fait le point sur ce qui se passe actuellement et la préparation WrestleMania. Donc, ce sera rendez-vous demain à 19h pour cela. De même chose, Access Prime Time pour avoir un petit peu tous la soirée tranquille. Et donc, mercredi ou vendredi, ou on vous tient au courant de toute façon.
Plutôt vendredi.
Plutôt vendredi.
J'ai le temps de lire un peu.
Ouais, en espérant qu'on. Bah, il faudra qu'on fasse pas un comics wiki trop long alors. Pour qu'on puisse
y
prendre.
Y a pas grand chose.
Ouais. Ça comme si tu débutais dans. Sur Comic City.
J'aime me bercer d'illusions.
Oh, tu sais, l'émission fera qu'une heure et demie, trois heures. Bah. Donc, vraisemblablement vendredi, du coup, un spécial sur. Et il est temps de l'annoncer, puisqu'on ne vous a pas encore dit ce dont on allait parler la prochaine fois. Donc, je fais le drum roll et puis tu y vas, ça.
Vas-y. Ça sera sur Jeff Lemire cette fois-ci.
Eh oui. Cette fois-ci, on ne parle pas d'un personnage.
On parle d'une œuvre en général.
Voilà, donc Jeff Lemire. On voit que ça m'arrange, ça me laissera un peu plus de temps pour lire certains trucs.
Oui, pour les relire surtout. Parce que, bah, mine de rien, la production est très grande. Donc on parlera à nouveau d'Animal Man. Donc voilà, ça, thématiquement, ça nous arrange. On enchaîne. Voilà, il y aura du Black Hammer, parce que c'est quand même du DC qui ne veut pas le dire. Et on parlera de ces trucs plus intimistes.
Oh merde, nous dit Pascal, on va pas parler d'art graphique, n'en déplaise à certains.
Sachez qu'on a déjà programmé à peu près les idées qu'on a pour les spéciaux suivants.
Ah, je vois que ça plaît aussi à Ziderm, je vois que ça plaît à pas mal de monde, hein. Bastien qui est content, Gré aussi, le charlatan maintenant, nous dit Jonathan. Voilà, un grand monsieur, Jeff Lemire, et... Voilà, il faut qu'on revienne un petit peu sur son parcours, parce que c'est un mec dont il y a 15 ans, on n'avait jamais entendu parler.
Voilà, et qui est un auteur majeur aujourd'hui.
Donc, ouais, ça mérite, voilà. Et puis, on surprend, comme on a dit, on fait des séries solo, d'équipe, et ben là, cette fois-ci, c'est un auteur, et peut-être que la fois d'après, ce sera un thème. On vous garde la surprise. N'oubliez pas, jeudi soir, alors 21h, on garde le concept de 21h pour le Comics Weekly, parce que c'est l'horaire habituel, les gens sont habitués, donc on va pas le changer. Mais donc 21h, le Comics Weekly, jeudi prochain, pour... ou alors, est-ce que tu veux qu'on avance à 19, Sam?
Normalement, je bosse pas. Donc, oui, pourquoi pas.
Parce que comme ça, ça nous laisserait un peu plus de marge pour faire le spécial vendredi, en fait.
Oui.
Eh ben, écoute, 19h, allez, c'est acté. 19h, jeudi, le Comics Weekly, puisque bah comme ça, on pourra au moins faire notre spécial vendredi sans trop s'inquiéter de l'heure. Oui. Sinon, on va être baisé pour le reboot des 3h. Cédric qui nous dit « J'arrive à la fin ». Et oui, malheureusement, oui. Cédric, on vient de finir, on en est au bout. Donc, je rappelle, très vite, puisque là, c'est parti en cacahuète dans tous les sens pour les dates. Demain, podcatch concernant les dernières news avec WrestleMania, on fait le point. On aura une petite émission, je pense, d'une heure et demie, deux heures grand max. Il n'y a pas tant d'infos que ça. Donc, histoire de faire le point sur la situation avant WrestleMania qui se tiendra samedi et dimanche. Donc, avec Jonath, on vous propose ça à partir de 19h. Mercredi, jour off. C'est bien, ça fait du bien, ça permet de souffler. Jeudi, le weekly, le comics weekly qui sera à 19h. Cette fois-ci, non pas à 21h, mais à 19h. Avec les sorties de la semaine, puisque Marvel et DC sortent des comics en digital. Donc, on va bien sûr aller voir pour traiter un petit peu tout ça. Vendredi, émission spéciale également, comme ce soir, sur Jeff Lemire. Et on s'arrêtera là.
Ça sera, oui, pour cette semaine, ouais, ça sera bien.
Ce sera pas mal, ce sera pas mal. À moins que peut-être d'ici là, j'ai le temps de caler un Rock City, un truc comme ça. Dans ce cas-là, je vous préviendrai, je m'avance à rien, je n'avance rien du tout, je ne fais pas de promesses. J'y travaille. Si jamais j'arrive à tout finir, eh ben, tant mieux, à ce moment-là, je le ferai peut-être samedi. Sinon, tant pis. On sera peut-être la semaine d'après. Sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Faites pas les fous. Et des gros bisous.
Oui, des gros bousés. Mais à distance. Distanciation sociale.